Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix sur Sud Radio avec vraiment un trio qu'on peut qualifier, ça va vous faire plaisir ma chère Françoise Degois, de royal.
C'est vrai.
Même si on commence par un président, le président de l'Institut de la Parole, le grandissime, le génialissime Philippe Bilger.
Non.
Donc je dois dire que la seule fois dans ma vie où j'ai rencontré Einstein, il m'a dit qu'il aimerait avoir 1% de son intelligence.
Non, c'est pas possible. Non. Non, mais on ne peut pas commencer l'émission comme ça.
Et auteur d'un excellent livre, Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie.
17h05, c'est pas possible. On va pas tenir deux heures.
N'abusez pas de l'hyperbole, mon cher Philippe.
Vous l'avez entendu, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et LCI,
salut.
À qui je rappelle que j'ai un regard qui n'est ni torve ni fourbe pour lui couper l'herbe sous le pied.
Bah, écoutez,
bonsoir Françoise.
Bonsoir, je vous trouve quand même torve et fourbe, pardonnez-moi, que vous me coupiez ou pas l'herbe, je trouve que vous avez un air entre deux airs, voyez.
Tant que c'est pas entre deux eaux, ça va à peu près.
Ça va.
Et, alors c'est une voix de Sud Radio qu'on est heureux de retrouver,
ah, oui.
Il vient de sortir un excellent livre, publié chez Ring, Fenêtre de tir, la présidentielle 2022 et le grand retour de l'ordre, c'est Éric Revel, qui est également éditorialiste. Bonsoir Éric Revel, heureux de vous avoir dans les vraies voix.
Bonsoir à Françoise, bonsoir à Philippe, aux deux Philippe.
Oui, il y a beaucoup de Philippe.
Il y a beaucoup de Philippe.
Vous ne voulez pas qu'on vous appelle Philippe aussi, pour ne pas vous sentir discriminé.
Si c'était mon deuxième ou troisième prénom, mais non. Moi, c'est Bernard et Maurice.
Et vous, Françoise, c'est pas Philippine, votre deuxième prénom?
Françoise, tout simplement.
Ah, c'est Françoise tout court.
Point.
Oh, bah, c'est
ça
très
suffira.
Bien.
Françoise en France, c'est d'une originalité. Merci maman, merci papa. Vraiment, alors.
Nos deux.
Oh là là,
nos
ils sont pas cassés, hein, quand même.
Nos deux débats du jour à 17h30, réforme de la politique agricole commune. Est-ce une bonne chose pour nos agriculteurs? Et oui, puisque c'est tombé hier soir la réforme de la politique agricole commune. Le bébé a été très long à arriver, ça a pris des mois et des mois de négociations. Alors certains la trouvent pas assez écolo, on pense à la gauche et aux écologistes en particulier. Et on en parlera avec Henri Biespéré, le vice-président de la FNSEA. À 18h30, notre grand débat. Départ de Redoux Muselier, ça s'est fait en direct ce matin sur LCI des Républicains. Mmh. Il avait dit qu'il partirait si Éric Ciotti gagnait la primaire. La primaire n'a même pas eu son premier tour, que déjà il est parti. Les Républicains vont-ils imploser? On imagine l'ambiance au Conseil Régional de PACA. Ça doit être absolument sympathique. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux, comment vont les vraies voix?
Ça va.
En forme.
Très bien.
Éric Revel, pareil, en forme pour la première.
Moi, plus qu'en forme.
Plus qu'en forme.
L'actualité est tellement mariole. Il y a tellement de choses à dire sur tellement de sujets. Et puis, on peut les prendre en souriant, tous ces sujets, parce que sinon, avec le temps qu'il fait en ce moment dans pas mal de régions...
On va chercher les cornes.
Oui,
les fabrications françaises, si possible.
Oui, on va défendre le made in France.
Ouais, pour se pendre.
Ce sera des cordes Montebourg, alors. Justement, alors, les vraies voix, aujourd'hui, c'est ni un coup de cœur, ni un coup de gueule, mais je veux attirer votre réflexion sur un sujet.
Réflexion, vous avez ces mots, parfois.
Ah bah, peut-être pour vous. Une réflexion sur votre sujet, c'est que ce matin, Karim Benzema a été condamné par le tribunal de Versailles à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende dans l'affaire de la sextape. Et en lisant les réactions sur les réseaux sociaux, certains disent « faut-il qu'il soit banni de l'équipe de France parce que maintenant il est condamné ?» Alors, il a dit qu'il allait faire appel, etc. Vraie question, je vais donner de manière brève mon avis de footeux. Il est excellent depuis qu'il rejoue en équipe de France, ça je pense que c'est indiscutable, il met des buts somptueux, etc. Mais on a sanctionné des joueurs qui avaient fait quand même des choses moins graves. Ma religion n'est pas faite, mais j'aimerais avoir l'avis des vraies voix. On donne la parole, comme toujours, à l'accusation pour commencer.
T'es
Monsieur l'avocat général, Philippe Bilger.
Mais
non,
faudère.
Pas du tout.
Si, si, non,
mais... Torve, fourbe,
ah bah, faudère, allez-y. Là, alors là, je te le dis, c'est faudère. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Tu veux qu'il s'en aille ou pas?
Moi, vu ses performances sportives, j'ai pas envie que ça arrive.
Voilà.
Non, mais c'est ça le problème.
J'aime cette honnêteté.
Philippe Bilger.
Voilà, merci.
Alors moi, je n'ai jamais aimé Noël Le Graët. Et j'ai la formule qu'il a utilisée à propos de Benzema, c'est « il n'est pas discutable, il est sélectionnable ». Je me demande ce qu'il faudrait, mais à la limite, je suis comme vous, Philippe. Moi, si Benzema continue à jouer, tant mieux, il a fait appel. Mais c'est au niveau de Le Graët que je me pose la question. Qu'est-ce qu'il faudra pour qu'un jour Le Graët considère qu'un joueur n'est plus sélectionnable, qu'il commette un crime contre l'humanité, peut-être. Quelque chose comme ça. Non, mais cette connivence me tape sur les nerfs. franchement.
Françoise de Goix.
Moi, je ne vois pas la connivence, parce qu'honnêtement, Noël Le Graët a été d'une méchanceté aussi avec un Benzema pendant 5 ans. Enfin, il a multiplié les déclarations jusqu'à ce que ça change complètement avant... ça a complètement changé, mais Le Graët a toujours été très dur avec Benzema. Moi, il va faire appel de la décision, c'est une histoire épouvantable. Je pense tout le temps à Mathieu Valbuena, parce que je crois que...
C'est été la victime, quand même, dans cette
la
histoire.
La victime dans cette histoire collatérale, obligée de s'exiler, je crois, à Fenerbahçe.
En Turquie.
Moi, j'aime infiniment Benzema. J'aime ce jeu, j'aime ce joueur. Je trouve qu'il a mûri très bien. Il a un comportement assez admirable, je trouve, sur le terrain, dans les vestiaires. C'est quelqu'un qui est très loyal, qui se met au service d'eux. Il a appris ça vraiment au Real. J'aime ce joueur, j'aime sa personnalité, vraiment. Donc, attendons, il fait appel de la décision et allons au Qatar avec lui.
Il est tranquille, vu les délais pour faire appel, pour 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et à ce moment-là, il aura 36 ans, donc il sera plus près de la fin de carrière, on peut dire ça
je
comme ça.
Je suis d'accord, mais honnêtement, voilà...
C'est ce à quoi j'ai pensé quand j'ai vu la sentence et qu'il faisait appel. Je me suis dit, il en repousse de 2 ans, et donc il sera en fin de carrière.
Oui, mais quelle histoire. Ça pose aussi toutes les questions sur les entourages de joueurs, en fait.
Ça,
voilà.
C'est
sociologique, en fait, cette histoire, vraiment.
C'est vrai. Éric Revel.
Moi, je trouve que Benzema, c'est un joueur absolument hors norme. Je vais vous dire, je vais même aller un peu plus loin au risque d'en choquer certains, c'est que quand j'écoute parler Benzema, je le trouve d'une intelligence lumineuse.
Mais non, mais c'est vrai, je suis
d'accord. C'est-à-dire que, je ne dis pas que la moyenne des joueurs qui s'expriment devant un micro sont un peu plus limités, je n'ai pas dit tout à fait
non,
ça,
non,
mais je trouve que quand...
Vous
Karine
pouvez le dire
que, je trouve que quand Karine Benzema parle, et on l'a entendu après le match contre le Kazakhstan, si je me souviens bien, il est lumineux, ce personnage est lumineux. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse jouer, même si on a un technicien hors pair, à ce niveau-là, si on n'a pas une intelligence du jeu, comme l'avait d'ailleurs Zinedine Zidane, qui était capable de faire des passes magnifiques. Mais, sur l'affaire Benzema, ce qui me chagrine un peu plus, je vais vous dire, c'est que Noël Le Graët et les autorités du football dans ce pays, avant même que la justice ne rende son avis, avaient déjà expliqué que de toute façon, il resterait en équipe de France, si vous vous souvenez bien, Philippe.
Absolument, je
confirme. Ils avaient dit ça. Et là, je me pose une question quand même. C'est que dans le débat politique, comparaison n'est pas raison, les lois de la République sont au-dessus de toutes les autres lois, alors je ne vois pas pourquoi les autorités du football françaises ont pu dire une telle chose. C'est-à-dire, quelle que soit la décision de la justice, nous, on gardera Karim Benzema. Évidemment que c'est une pépite, évidemment que c'est un diamant, il n'y a pas de doute, mais j'ai trouvé cette déclaration.
C'est vrai.
Je ne sais pas ce que Françoise et Philippe en pensent, mais...
Non mais c'est à ça que pensait Philippe. Non mais c'est vrai que c'est à ça que vous pensiez Philippe. Je l'avais cette déclaration, je l'avais zappée. Oui c'est vrai, pardon.
Non mais je voulais vous faire une remarque à tous les fois. Vous avez beaucoup tweeté dimanche dernier, mon cher Éric Revel, suite à l'imbroglio de OLOM en disant on aimerait enfin que la Ligue réagisse. Mais est-ce qu'il n'y a pas le syndrome tant à la Ligue et à la Fédération? Je vais vous faire réagir tous les trois comme vous êtes trois fans de foot et qui suivez les à côté. Il n'y a pas le syndrome de Ponce Pilate, Philippe Bilger?
Ah mais je dirais pas seulement dans cet univers, partout pour moi. C'est-à-dire que ce que vous dites Ponce Pilate, c'est, moi je dirais, généralement l'absence de courage. Mmh. À la limite, j'accepte, il se contente pas de pas se laver les mains. Comme dirait Camus, ils n'ont pas les mains, quoi.
Françoise de Goix ou Éric Revel, c'est le syndrome de Ponce Pilate.
Mais je vais vous dire, moi, sur l'affaire OMOL, et ça rejoint un peu le thème de mon livre, c'est que dans cette affaire-là, qu'est-ce qui apparaît d'une manière absolument flagrante et énorme, c'est que il n'y a plus d'autorité. C'est-à-dire que sur un petit match de foot OMOL, je dis un petit match de foot parce que par rapport au bouleversement du monde, par rapport au phénomène géopolitique, bon, c'est quand même une petite chose, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir-là, vous vous souvenez, Philippe et Françoise, c'est que ce soir-là, la préfecture fait un communiqué pour dire c'est pas nous, c'est la Ligue de football qui décide. La Ligue de football fait un communiqué en disant, ah ben non, c'est pas nous qui prenons la responsabilité, c'est l'autorité du préfet, et en réalité, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus aucune autorité qui, sur un petit match comme celui-ci, ne prend de décision.
Non. Françoise de Goix, c'est la patate chose.
Non, moi je pense que c'est Henri Cueil, vous savez, le merveilleux Henri Cueil, il n'est pas de problème
de
qu'une absence de solution ne puisse ne pas résoudre. Vous voyez, c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'on laisse les choses finalement pourrir, fermenter, etc. D'ailleurs, ça a été ça, Karim Benzema. Avant son retour en grâce, je vous rappelle que pendant 5 ans, on a laissé mariner, on a multiplié les déclarations très désagréables à son encontre, et là, d'un seul coup, maintenant, il devient intouchable. C'est plutôt ce changement qui me paraît...
Et sur le cas d'espèce...
terminer sur l'OMOL. Je suis sur l'OM.
C'est l'OM, ouais.
Ouais, l'OM, pardon, match à l'extérieur. Je suis très choquée de la sentence sur le type qui a jeté la bouteille.
On en a parlé hier.
Ah ouais, je dis juste, j'aurais aimé qu'une interdiction à vie de stade, comme aux États-Unis.
On est bien d'accord.
Direct.
Mais sur le cas d'espèce, juste OL-OM, quand il y a manque d'autorité, quel que soit le phénomène sociologique auquel on assiste, en général, c'est le lampiste qui prend tout dans la figure. Et là, c'est l'arbitre. Oui. C'est-à-dire que tout le monde, le président de l'OL, M. Aulas, tout le monde sait. On dit, non, mais pas du tout, c'est l'arbitre qui voulait reprendre le match. Comme si l'arbitre n'avait pas une autorité qui s'appelle la Ligue de
football,
professionnel.
L'LFP.
Et donc, c'est ce pauvre monsieur, j'ai oublié son nom...
Buquet.
Qui tout d'un coup a une pression de folie et à qui on a fait peser toute la responsabilité de reprendre ou ne pas reprendre ce match. C'est très symbolique, à mon avis, Philippe, David. C'est très symbolique.
Ah, mais c'est très symbolique. C'est
cette petite parenthèse sportive sur cette espèce d'autorité, c'est mon hypothèse, qui se délite dans tous les secteurs de ce pays, jusque-y y compris dans un match de football.
Ce qui est absolument fou, et d'ailleurs l'autorité, vous en parlez beaucoup dans votre livre « Fenêtre de tir » publié chez Ring, un livre d'Éric Revel. À 17h30, notre premier débat. Réforme de la PAC. Est-ce une bonne chose pour nos agriculteurs? Vous êtes 78,1% à dire non. Vous êtes agriculteur, là, vous nous écoutez dans le Gers, dans les Alpes-Maritimes, dans le Lot, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous voulez nous dire ce que c'est la PAC pour vous? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants avec les vrais vous.
Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Éric Revel. Et c'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine?
Tenez cette table-là. Eh bien, tout le monde l'appelle la table des chevaliers.
Ah bon?
Une fois, il y a un type qui l'a appelé la table des deux connards. Mais je sais pas s'il nous avait reconnus.
Le tour de table
de l'actualité.
Et mon cher Philippe Bilger, vous rappelez le titre d'un blockbuster hollywoodien, Chérie, j'ai rétréci la droite.
Oui, en fait, c'est un essai que j'ai terminé hier. Et au sujet duquel je voudrais faire trois réflexions rapides. D'abord, je crois qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'écrire un essai politique novateur. On retrouve en permanence les mêmes séquences et les mêmes péripéties, et parfois l'analyse est un peu différente, mais donc il est très, en effet, épouvantablement dur de fournir un livre d'essai politique qui soit original. Deuxième élément, dans ce livre, il y a des propos qui sont rapportés, que le président a dit, et qui sont rassurants sur sa conception de la liberté d'expression. Par exemple, à plusieurs reprises, il insiste en disant « mais on doit parler de tout avec tout le monde ». Et en ce sens-là, il vise certains ministres qui semblaient assez frileux. Et la dernière réflexion est plus triste. J'ai eu l'impression, en lisant ce livre, peut-être qu'en vieillissant, je deviens plus lucide sur l'univers politique, c'est que, au fond, j'avais l'impression que l'univers politique, à droite comme à gauche, n'est fait que de petites rencontres, de petits clientélismes, de petits coups fourrés, de dîners, de choses comme cela. J'avais l'impression, mais j'ai peut-être tort, d'une absolue petitesse, comme si en réalité la politique n'était plus que cela, alors que j'espère qu'elle peut être autre chose.
Françoise Degois.
Je suis d'accord avec Philippe sur la difficulté d'écrire des essais politiques. En réalité, c'est très difficile. On est quand même dans une décomposition générale, on peut quand même le dire. S'il y a une décomposition pour une recomposition, je veux bien en accepter l'augure, mais là c'est très 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 compliqué. On est tombé assez bas, enfin assez bas. Je n'aime pas ça donne un sentiment élitiste, mais on est quand même gouverné par les pulsions les plus négatives en réalité et les plus sinistres. C'est ce que je ressens du tableau politique actuel, et c'est très compliqué dans ce tableau. Je suis d'accord avec Philippe Bilger d'arriver à trouver la quintessence de ce qui est en train de nous arriver en réalité. On est dedans, on est empêtrés. Personnellement, vous êtes tous des spécialistes de la politique. Éric Revel, bien sûr. Philippe Bilger, moi, ça fait 25 ans que je suis journaliste politique. Je n'ai jamais, mais vraiment, et puis j'ai également, je suis passé de l'autre côté de la barrière, je n'ai jamais constaté, vécu et regardé une situation aussi détestable, aussi... comment dirais-je, tout est gazeux en réalité, c'est gazeux et médiocre. On n'arrive pas à attraper les choses, on ne voit pas où est-ce qu'on va aller ensemble, tout paraît être fait pour la réélection d'Emmanuel Macron, mais sans aucun élan, avec un système médiatique qui s'auto-alimente, qui crée des prophéties auto-réalisatrices, tout ça me paraît vraiment très compliqué. J'aimerais que derrière ce sentiment de décomposition générale jaillisse une composition inattendue.
Éric Revel.
Alors, deux remarques. La première, là je vais être un peu réac et un peu orienté, mais je pense qu'à force de dire que le niveau de l'éducation nationale baisse, et il baisse de manière constante, bah, il faut bien admettre que ça finit par atteindre la classe politique qui pourtant, pendant des décennies, représentait une sorte d'élite intellectuelle, des élites des idées. Puis deuxième remarque, qui ne va pas plaire à Françoise, c'est que je pense qu'on assiste à une sorte de point de basculement idéologique. Alors, je vais essayer d'être clair et d'être concis. C'est que pendant des années, Françoise, la gauche... portait les idées et les mettait sur la place publique. C'était les années 80, les années 90, où des grandes idées faisaient le débat. On était d'accord, on n'était pas d'accord, mais en tout cas, la gauche portait des idées qui structuraient la société française. Et d'ailleurs, ceux qui réagissaient à ces idées que portait la gauche française, qui était un véritable producteur d'idées, eh bien, on les désignait de réactionnaires, parce que c'était les gens qui étaient en réaction, et donc c'était plutôt les gens de droite. Aujourd'hui, Françoise, j'ai l'impression qu'on assiste peut-être à une sorte de virage idéologique, que vous appelez gazeux, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que les idées sont plus portées par la droite, et que donc les gens de gauche qui portent moins d'idées sont en réaction à ces idées, et qui pour moi, je l'écris dans le livre, sont des sortes de néo-réactionnaires. Moi, je regrette l'idée où la gauche portait... je regrette le temps où la gauche portait de grandes idées, où, idée contre idée, on pouvait débattre et s'affronter. Aujourd'hui, il y a un virage idéologique, qui vous plaît sans doute pas, Françoise, mais qu'il faut constater. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont plus les idées de droite qui font débat que les idées de gauche, parce que malheureusement, je le dis pour le débat démocratique, la gauche s'est asséchée.
Non, mais moi, je suis absolument... je crois que la droite a porté énormément d'idées. Elle a eu des grands intellectuels, elle a eu un grand président.
Oui, mais si vous voulez, Jean-Paul Sartre, on l'a toujours mis au pinacle, et Raymond Aron l'a toujours dit, alors que Sartre s'est gouré surtout, et que Raymond Aron n'a pas été enseigné à l'université.
Mais laissez-moi finir. Nicolas Sarkozy a porté des idées dans sa campagne, donc je pense que ça, c'est très schématique, et puis par ailleurs, sur la somme, depuis que la 5e existe, sur la somme d'années où la gauche a été au pouvoir, nous sommes largement derrière. Moi, je crois pas à la bascule, tout ça, c'est bullshit pour moi. Je crois qu'il y a des préoccupations sociales qui tiennent encore. La gauche, ça tient au fait qu'elle n'a plus de personnalité véritablement pour l'incarner. Mais vous regardez le programme de Jean-Luc Mélenchon, il est très travaillé, ce qui est un des programmes les plus travaillés aujourd'hui de tout l'ensemble du monde politique. C'est travaillé, ça va de la gestion de l'eau, en
à
passant par...
Ouais.
C'est remarquable, le programme de Mélenchon. On est d'accord ou pas, mais c'est travaillé. Nicolas Sarkozy, il conquiert le pouvoir avec un travail hors norme avec Emmanuel Mignon. C'est un travail sur les idées, c'est un travail sur les concepts. Donc, je crois que moi, que la gauche n'est pas morte, je pense que les grands idéaux ne sont pas morts. Simplement, on n'a jamais vu une idée toute seule traverser la pièce à pied. Donc, il y a la personnalité qui manque pour porter ces idées-là, je crois.
Je pense qu'il y a les deux. Il y a les idées et l'incarnation.
Tout de suite, je vous donne une info qui vient de tomber. L'embarcation de migrants qui a fait naufrage au large de Calais entre la France et le Royaume-Uni. Il y a au moins 27 morts.
Quel désastre.
Qui ont été retrouvés. Gérald Darmanin.
Vous comprenez pourquoi Décathlon, mais moi je comprends très bien que Décathlon ne veut plus vendre les kayaks, etc. pour pas être comptable de ça.
Et je donne l'info, Gérald Darmanin est parti sur place, direction Calais, pour aller faire le point avec les autorités locales. Tout de suite, notre premier débat, réforme de la politique agricole commune, est-ce une bonne chose pour nos agriculteurs? Vous n'êtes franchement pas convaincus, puisque vous êtes 77,9% à dire non. On va en débattre avec Henri Biesperé, vice-président de la FNSEA.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Après de longs débats, la réforme de la PAC, la politique agricole commune, a été adoptée. Elle s'appliquera à partir du mois de janvier 2023. Pour les Verts et une partie de la gauche, les mesures ne sont pas assez ambitieuses. D'où notre premier débat, réforme de la nouvelle politique agricole commune. Est-ce une bonne chose pour nos agriculteurs? Et vous êtes désormais 78% à dire non. Avec nous, une voix qu'on connaît bien, une voix béarnaise, une voix des Pyrénées-Atlantiques.
Oh, un vrai accent.
Ah oui, Henri Biasperé, éleveur de vaches laitières dans les Pyrénées-Atlantiques et vice-président de la FNSEA. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors justement, je vais vous poser une question pour taquiner Françoise Degois. La gauche et les écologistes sont vent debout contre cette réforme. Est-ce une réforme de la PAC de droite ?
C'est la question qui s'adresse à moi.
Oui, bah oui bien sûr. Non, à vous, Henri.
À vous. Oui, mais on sait que les demandes et les attentes des écologistes en particulier sont extrêmement radicales. Ils voudraient un grand changement tout de suite. Et nous, agriculteurs, on veut essayer d'allier le maintien de la souveraineté alimentaire. Et les Français doivent se rappeler qu'il y a un an et demi, l'agriculture a tenu bon, a fourni des produits sur tous les rayons alimentaires. On n'a pas manqué de nourriture, contrairement aux craintes. On veut donc continuer d'assurer cette alimentation aux Français tout en assurant une transition écologique. Nous sommes conscients qu'il faut aller vers une agriculture qui soit plus économe en intrants, plus respectueuse de l'environnement, et cette PAC va le permettre, va permettre d'accompagner tranquillement cette transition.
Non, moi, il y a quelque chose.
Françoise Degois.
On est d'accord, je pense que c'est jamais assez parce qu'il faut toujours la verdir. Il y a deux choses qui m'ont paru plutôt bien, et vous allez être d'accord ou pas, c'est vraiment la mesure sur les petites entreprises avec les 10% qui doivent être distribués. Ça, c'est un progrès. Et puis surtout, la réserve.
Alors, je vous donne la mesure dans son intégralité.
Allez-y, oui.
Au moins 10% des paiements directs devront être redistribués aux petites et moyennes exploitations. Et les États devront employer au moins 3% du budget en soutien des jeunes agriculteurs.
Bon, c'est hyper important en termes de trésorerie, on le sait tous, parce que c'est de l'argent direct, c'est vraiment ça. Mais surtout également la réserve, je crois qu'elle est de 500 millions d'euros, une réserve en cas de fluctuation des prix. Donc je crois que moi ça ne va pas assez, que les écologistes ont raison de parler un peu de greenwashing, mais on sait très bien la PAC. Alors pour le coup, moi
Je traduis pour les auditeurs, c'est une manière de rendre écologique quelque chose qui n'est pas beaucoup.
On le repeint en vert quelque chose. Donc je pense que c'est plus que de la repeinte en vert, là, cette PAC, et il y a des choses assez intéressantes. Voilà, c'est ce que je me dis. En plus, mes amis socialistes, notamment Éric Andrieux, qui est un grand spécialiste, a beaucoup travaillé, et je trouve que la copie n'est pas si nulle, en fait.
Henri Biasperi.
Alors, vous savez, que je dis souvent, en particulier sur votre antenne à Sud Radio, que la France est toujours à montrer de bon exemple à l'Union européenne. Donc là, vous parlez d'une mesure de paiement redistributif, qui est maintenant inscrite pour les 27 pays de l'Union européenne. Oui. La France la met déjà en place, c'est-à-dire ce paiement vers les petites exploitations de moins de 53 hectares est déjà en œuvre depuis dans la PAC actuelle que nous connaissons.
Je le sais parce que je me souviens.
Henri Biasperi.
Oui. Pardon.
Et nous avons souhaité que ce paiement qu'on appelle redistributif, voilà, on prend des aides sur l'ensemble du budget de la PAC qu'on oriente vers les exploitations de moins de 53 hectares, eh bien, on a souhaité justement qu'il soit maintenu et qu'il continue encore sur la future PAC. Et je confirme que c'est une bonne mesure pour les petites exploitations que d'accompagner, de leur donner un petit supplément à l'hectare.
Philippe Bilger.
Pardon, Henri, pour la banalité de ma question. Est-ce que ça veut dire que les agriculteurs ne sont pas du tout hostiles à la tonalité écologique, et est-ce que vous la pensez totalement compatible avec ce qu'exige une agriculture rentable ?
Mais c'est le pari que l'on fait. Le pari que l'on fait en évitant et en demandant ce qui n'est pas de radicalité, c'est justement qu'on puisse la rendre compatible, qu'on puisse l'installer tout doucement, tranquillement. La future PAC prévoit que 25% des montants, donc mettez-vous à la place d'un agriculteur. L'année prochaine, en 2022, je vais recevoir 100 euros en continuant mes activités. En 2023, si je veux percevoir mes 100 euros, je vais en avoir 25 qui vont être liés à de nouvelles mesures que l'on appelle les éco-schémas. Donc, je vais devoir faire des efforts pour aller vers plus d'environnement. Alors, ensuite, ces éco-schémas sont à redéfinir, mais pour avoir la même somme, je vais devoir encore un peu plus verdir mon exploitation pour pouvoir bénéficier du même paiement que celui que j'aurai en 2022. C'est que ce que les auditeurs doivent comprendre, comme si on prenait sur une part de salaire d'un salarié en lui disant « l'année prochaine, si tu veux le même salaire, eh bien, il faudra que tu fasses des efforts liés à l'environnement, consommer moins d'énergie, prendre des transports plus doux, etc. etc. »
Éric Revel.
Alors, hier soir, monsieur le vice-président, nous avions un débat avec Christiane Lambert, que vous connaissez bien, qui est la présidente de la FNSEA, avec Anne Lauvergeon aussi, qui était la patronne d'Areva, autour des sujets justement écologiques. Alors, on parlait de nucléaire et on parlait aussi de pesticides, puisque c'est hier soir que le Parlement européen a voté cette PAC qui sera mise en place en 2023. Et Christiane Lambert faisait remarquer une chose, parce qu'évidemment, le consommateur veut des produits locaux, près de chez lui, mais il n'est pas prêt forcément à avoir une porcherie qui s'installe à côté de chez lui. On parlait des pesticides. Et la question des pesticides, elle est évidemment très, très forte. Et Christiane Lambert disait, regardez, un pays comme le Sri Lanka a supprimé les pesticides. Résultat, ils ont basculé dans une famine. Donc, la question que je vous pose, c'est, il faut quand même dire aux consommateurs que les agriculteurs font des... essaient évidemment de limiter l'utilisation des pesticides, mais qu'elle n'est pas si simple que ça, la question des pesticides.
Elle n'est pas si simple que ça. Elle correspond au même sujet que si on disait à partir de l'année prochaine, on ne va plus utiliser d'antibiotiques pour soigner les humains. C'est exactement la même chose. Il faut accompagner les agriculteurs pour que par des pratiques, on évite peut-être des traitements antibiotiques. Et on sait qu'on en a déjà parlé à d'autres moments sur Sud Radio. L'électronique embarquée, l'agriculture de précision fait qu'on réduit les doses de produits pesticides, on évite à certains moments parce qu'on regarde où en sont les attaques parasitaires, à quel stade est la plante. Et donc, on évite souvent un ou deux traitements dans toute la vie de la culture. Par contre, les supprimer complètement serait parfaitement suicidaire. Il suffit qu'on a vu ce qui s'était passé sur les betteraves, mais on peut supprimer un certain nombre de produits. Mais si une année, parce que la climatologie le permet, il y a une attaque parasitaire importante, il faut pouvoir dire on utilise le joker et on a la possibilité d'utiliser les produits. Donc le 0-0-0, c'est faire courir un risque, encore une fois, pour la sécurité alimentaire de notre pays, qui, je le rappelle encore, est le principal projet, le principal sujet de la politique agricole commune.
Françoise de Goivre.
Deux points, Henri, sur les pesticides. L'engagement, c'est 50% en 2030. Moins 50% en 2030, on est d'accord. Avec une possibilité, enfin, la possibilité que les plans proposés par les États soient attaqués par la Commission. C'est-à-dire, l'Europe peut attaquer les plans si les plans les plans nationaux que les États présentent n'intègrent pas ce critère de moins 50% en 2030. On est d'accord sur les pesticides. Moi, ce qui me gêne le plus sur cette PAC, c'est bien sûr tout ce qu'on connaît. Vous êtes un Béarnais, vous êtes un éleveur de vaches, vous n'êtes pas un agriculteur, un gros agriculteur, vous comprenez ce que je veux dire, Henri? Vous n'êtes pas un agriculteur de la bosse, des grandes plaines.
Ah, mais il a pas mal de vaches, a priori.
Non, mais je suis d'accord, mais c'est un éleveur, donc ce n'est pas pareil. Il y a quelque chose qui a été raté dans cette PAC. Mais vous le savez très bien, c'est le plafonnement des aides pour les énormes sociétés. Donc, bien sûr qu'il y a le rééquilibrage, et moi je me souviens quand j'étais au ministère de l'Agriculture avec Stéphane Le Foll sur l'aide aux petites entreprises, on a réussi à imposer ça aux 27, mais ça, on l'a raté encore cette fois-ci. Le plafonnement des aides aux plus gros éleveurs, mais surtout aux plus gros agriculteurs, c'est quelque chose pour moi qu'on a raté. Parce qu'il y a une forme d'enrichissement, l'argent va à l'argent, qui va à l'argent, qui va à l'argent, et ça crée de trop grandes disparités.
Henri Biespéré.
La difficulté, qu'est-ce qu'on appelle gros, qu'est-ce qu'on appelle petit, quoi.
Écoutez, quand vous avez des centaines d'hectares de blé ou de céréales dans la blé, vous n'êtes pas la même chose que quand vous faites du porc noir chez moi dans les Hautes-Pyrénées, ou que vous ramez avec 100 vaches laitières. Enfin, vous comprenez, on sait très bien qu'est-ce qui est gros et qu'est-ce qui n'est pas.
Quand vous êtes à Bruxelles, au comité des organisations professionnelles avec les 27 pays, même si vous êtes agriculteur français avec plusieurs centaines d'hectares, vous avez à vos côtés des agriculteurs, en particulier des anciens pays d'Europe centrale, qui eux comptent en milliers d'hectares.
Je sais, le
terme gros quand on est à Bruxelles, voilà. Par contre,
vous êtes d'accord quand même sur la disparité. Vous êtes d'accord sur la disparité.
Je suis d'accord sur la disparité. N'empêche que aujourd'hui, ces soutiens qui ont été calculés à l'hectare, où effectivement on n'a pas mis de plafonnement, c'est un débat. Il est aussi au sein de la FNSEA. On est bien d'accord, ça peut choquer le consommateur.
Bah oui.
N'empêche que quand vous êtes exploitation céréalière, les seuls soutiens que vous avez, c'est le marché mondial. Cette année, il est porteur, tant mieux pour les céréaliers. Il y a deux ans, les prix étaient très bas. Même quand vous aviez des centaines d'hectares, le revenu à la fin de l'année, c'est pas pour autant quand il y a une perte légère à l'hectare et que vous multipliez par 500 ou 1000 hectares, vous la multipliez quand même par...
Henri, vous permettrez,
beaucoup plus globalement que le simple fait de dire on plafonne, point barre.
Henri, vous me permettrez de pas pleurer trop sur les céréaliers, non. Pardonnez-moi, merci. Soyons quand même, gardons un minimum quand même de courtoisie, on va pas pleurer sur les céréaliers. Et la réalité, vous savez très bien que on parce qu'on plafonne pas les aides, on continue, si vous voulez, à contribuer à l'agriculture industrielle, dont beaucoup d'agriculteurs veulent sortir. Il y a beaucoup d'agriculteurs
L'agriculture n'est pas ni plus ni moins industrielle sur une grande exploitation que sur une exploitation moyenne. Le moyen de plafonner, de limiter la taille d'exploitation, on l'a porté avec le député Sebastous dans un projet de loi qui vise à réglementer le contrôle des structures. Ce que notre pays et notre société a toujours fait pendant des dizaines d'années, aujourd'hui est contourné avec des formules sociétaires. Le projet de loi est en train d'être adopté. Il est en commission mixte entre les députés et les sénateurs. J'espère qu'il va aboutir. Et c'est pas forcément par l'aspect financier. Même si je reconnais qu'il y a un sujet, quand on regarde plusieurs centaines de milliers d'euros sur une même exploitation, ça peut poser question pour un citoyen. Mais il faut voir qu'en face, il y a aussi plusieurs dizaines de milliers de tonnes alimentaires qui vont sur le marché. Que les efforts qui sont demandés à ces personnes-là, quand vous prenez 10% de la surface qui doit être consacrée à de la biodiversité, mais celui qui a 1000 hectares, il fait 10% de 1000 hectares. Donc, il va contribuer aussi à sa juste mesure à l'effort qui est demandé de verdissement. Donc, je veux juste le mettre en relation. Les aides sont liées à des efforts de l'agriculteur, à un engagement de l'agriculteur pour de la nourriture et pour des actes environnementaux.
Bio, bien sûr.
Et plus on est gros, plus on en fait aussi. Mais ce n'est pas pour ça que je vais le prôner comme étant une orientation pour l'agriculture française.
Éric Revel veut réagir.
Oui, monsieur le vice-président, j'aimerais que, je ne vais pas dire qu'on prenne de la hauteur, mais qu'on regarde un peu l'agriculture française vue du ciel. Parce que PAC ou pas PAC, l'agriculture en France et ailleurs, c'est la seule entreprise qui n'a pas de toit sur la tête. C'est par définition une entreprise, qu'on soit viticulteur, qu'on cultive des céréales ou qu'on élève des porcs comme Christiane Lambert, c'est une entreprise qui n'a pas de toit sur la tête. Ça veut dire qu'elle est victime au premier chef des dérèglements climatiques. Et le gel auquel on a assisté l'hiver dernier, qui a condamné des tas de productions viticoles, de fruitiers, etc., c'est un phénomène qui va s'amplifier. Et ça, PAC ou pas PAC, ce dérèglement climatique doit, j'imagine, vous inquiéter à un certain niveau.
Et il rentre en ligne de compte.
Il nous inquiète et c'est pour ça qu'on a fait ce fameux rapport d'orientation en disant prenons en compte ce changement climatique, on doit adapter nos systèmes de production, on doit adapter nos cultures, on doit adapter les rotations de cultures, on doit peut-être faire un peu moins de spécialisation, un peu plus de rotation. C'est ces orientations-là qui vont nous amener vers ce fameux agro-environnement que tout le monde attend. Ce changement climatique, si on ne fait rien, on va le prendre effectivement sur la figure. Ça, on n'en a pas envie. Donc le message vers les agriculteurs, il faut pas bouger parce que c'est une demande des écologistes, il faut bouger parce qu'on en a besoin pour s'adapter au changement climatique, on en a besoin pour s'adapter à la demande du consommateur, et c'est le consommateur et le changement climatique qui guideront les actions des agriculteurs, et non pas l'idéologie prônée par certains partis politiques.
En tout cas, non mais Henri, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent faire cette mue, hein, on est d'accord là-dessus. Ils n'ont pas besoin, effectivement, d'être en relais ou même derrière la Confédération paysanne qui fait un travail remarquable, je le dis, moi je tape pas ni sur la FNSEA mais ni sur la Confédération paysanne. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont cette conscientisation, de la même manière que quand vous allez en Afrique, moi j'ai fait beaucoup de déplacements en Côte d'Ivoire, j'ai été sidéré de voir les paysans de Côte d'Ivoire sur le café, c'est des véritables ingénieurs météo, c'est des ingénieurs avec des systèmes embarqués informatiques incroyables pour surveiller les récoltes et tout, c'est fantastique, le bon que les agriculteurs ont fait, il faut vraiment, on n'est plus dans le tableau de millier, hein, vraiment l'agriculture.
C'est informatisé.
Non, mais c'est merveilleux. Mais quand même, il y a des glissières. Je voulais dire à mon ami Éric Revel qu'il y a cette mutation qui est engagée par les agriculteurs eux-mêmes, et puis il y a des glissières financières. Il y a des glissières de sécurité, notamment le fonds de 500 millions d'euros peut servir à ça aussi, Henri, ou pas, qui a été voté dans la PAC.
Oui, on a aujourd'hui beaucoup de.
Il y a des
airbags,
je veux dire. Oui, pardon.
Pardon ?
Oui, pardon.
Enfin, ça protège la vie, glissière ou airbag.
Oui. Ouais. Henri Biespéré. ou oui, ceinture de sécurité.
Une des meilleures résiliences, c'est quand même de compter sur voilà, les moyens de production qu'on met en place dans notre secteur agricole. Je vous félicite de soutenir l'ensemble des syndicats agricoles.
Oui.
Moi, quand j'en vois certains qui vont mettre des coups de canif dans des bâches de bassines, alors que des agriculteurs ont investi pour retenir de l'eau, pour permettre une production de qualité sur des territoires qui sont plutôt difficiles à cultiver, je veux bien soutenir certaines idées d'un peu tous les syndicats, pourquoi pas. Mais là, je trouve qu'il y a des bornes quand même entre agriculteurs qui sont un peu dépassés.
Oui, mais ils ont autant de reproches à faire au coup de. Avec, vous savez, les relations sur les territoires aussi entre la FNSEA et certains syndicats, c'est pas blanc-bleu, vous n'êtes pas des anges non plus, Henri. Bon, voilà.
Éric Revel, pour une dernière remarque ou question et une réponse. Bah,
oui, c'est vrai. Gasperi. C'est vrai parce que ceux qui nous écoutent ont peut-être pas trop conscience de cela, mais Françoise avait raison de rappeler qu'on n'est plus dans les tableaux de Millet, de la Semeuse,
d'Angélus.
Il y a peu de gens qui savent, par exemple, que le digital rentre dans les tracteurs aujourd'hui, que l'intelligence artificielle a fait son arrivée dans la gestion agronome d'un paquet de champs. C'est vrai qu'aujourd'hui, Monsieur le Vice-président. L'agriculteur moderne, c'est quelqu'un qui est digital natif, enfin, qui a intégré tout ça.
Henri Biasperi.
Je partage à 100%, je l'ai dit un peu tout à l'heure, l'innovation, les nouvelles technologies, tout ce qui est dans la recherche aujourd'hui pour produire des semences qui vont faire que nos plantes seront adaptées à des milieux où il va tomber moins d'eau, qui vont être capables de consommer moins d'intrants pour faire le même rendement, parce que c'est quand même notre objectif. Je lisais encore ce matin, on a des problèmes, vous le savez, sur la culture de l'olivier ou des cerises. On a aujourd'hui des start-up qui ont inventé des boîtes à hormones, si on veut, pour attirer le parasite avant qu'il aille piquer l'olive ou la cerise. Il va se faire piéger. Et là, on n'utilisera plus d'insecticides. Mais cette technologie, elle n'est pas encore disponible dans les champs. Donc, laissez-nous le temps de trouver des solutions. Chaque fois qu'on a une solution qui va remplacer un produit pesticide par un produit biocide, biosourcé, on le prendra, on est bien tourné vers le consommateur.
Justement, parce que là, on parle de la PAC et de l'œuvre européenne, mais vous avez aussi des distorsions absolument incroyables en Europe. Vous parliez de cerises tout à l'heure. On sait qu'il y a des pesticides qui sont interdits en France, qui sont autorisés ailleurs. Résultat des courses, on a parfois de la cerise française qui meurt sur l'arbre et on importe de la cerise qui vient d'ailleurs en Europe.
Bien sûr.
Vrai
je peux vous dire que mes voisins espagnols, puisque vous avez dit que je venais des Pyrénées-Atlantiques, ils ont planté des dizaines d'hectares de cerisiers parce qu'ils voient bien que chez nous, on ne va plus avoir de cerises et ils vont se charger d'alimenter le marché et français.
Voilà.
Rassurez-vous, vous aurez de la cerise dans vos assiettes.
Mais on a envie d'avoir de la cerise française. Merci beaucoup, Henri Biasperi, éleveur de vaches laitières dans les Pyrénées-Atlantiques et vice-président de la FNSEA. Verdict sur Twitter. Réforme de la PAC, est-ce une bonne chose pour nos agriculteurs ? Vous dites non à 75,5%. Ça vous dirait la chronique présidentielle d'Esteban Radial, les vrais voix ? Eh ben c'est tout de suite.
Ah ouais, s'il vous plaît.
À la campagne, en principe, on se lève tôt. Pas moi, je dors encore, pour les raisons que vous savez. À la montagne, il y a des chalets, des chamois. Mais c'est pas l'objet de cette chanson. Je voulais juste voir si vous suiviez.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Éric Revel. Et c'est l'heure de la chronique présidentielle d'Esteban Ragna.
Et la grande info de la présidentielle aujourd'hui, c'était ce matin sur LCI. Renaud Muselier était l'invité de l'interview politique. Et voici ce qu'il a dit.
La conséquence, elle est simple. Je vais quitter les Républicains.
Voilà, Renaud Muselier qui va quitter les Républicains, un départ qui pourtant avait été anticipé par Alain Barrière il y a quelques années.
Partir, sachant seulement un matin qu'il faut partir, ignorant tout de ce que sera.
Françoise, il va aller où, Renaud Muselier ?
Il va chez Macron.
Chez Macron.
Il est déjà chez Madame Macron.
Chez Horizon, on parle de chez Horizon.
Oui. Dans ces cas-là, il partirait vers de nouveaux horizons,
oui,
c'est ça ?
Oui, mais vous savez, c'est déjà fait. Enfin, je veux dire, c'est une clarification. Je trouve qu'elle est bienvenue, mais il y a tellement longtemps que Renaud Muselier n'est plus là. Il a été élu, parce qu'Emmanuel Macron a retiré ses ministres, et puis la droite. Enfin, vous voyez, voilà. Ça ne m'a pas Ça m'a pas, je suis pas tombé de ma chaise, quoi. Non, Eric ?
Bah, d'abord, c'est une réaction de Renaud Muselier après la décision de Xavier Bertrand de refuser son parrainage pour le Congrès des Républicains. Donc ça, c'est plutôt un très bon réflexe politique, me semble-t-il, de Xavier Bertrand. Maintenant, moi, ce qui me choque un peu, je vais vous dire quand même, dans cette décision de Renaud Muselier, c'est qu'il y a quelques mois encore, vous vous souvenez comment il avait fait le siège des Républicains pour demander d'avoir l'investiture, les Républicains, pour se présenter dans la région Sud. Bon, tout ça, je pense que les électeurs ne l'ont pas oublié. Comment il a fait aussi alliance avec la gauche. Alors peut-être qu'un certain nombre de maires du Sud, les grands maires du Sud, de Marseille, enfin de lui à Marseille comme président de région, de Toulon, voire de Nice, ont des promesses d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que la question, c'est est-ce que cette décision de Renaud Muselier va faire imploser les Républicains, ou est-ce qu'au contraire, ça va charpenter et structurer un peu plus les Républicains autour de ceux qui croient vraiment à l'avenir de ce parti? Ben, je partage le point de vue de François, c'est-à-dire que c'est plutôt une clarification, et j'ai plutôt le sentiment qu'au contraire, ça va consolider les structures qui restent des Républicains. Ceux qui quittent le navire l'avaient déjà quitté depuis longtemps. Donc ben, voilà, c'est une clarification.
Philippe Bilger.
C'était donner beaucoup d'importance à Renaud Muselier, mais je ne veux pas anticiper le débat qui va venir, de penser que ça... Même les traîtres ont besoin d'une cohérence. Il l'a mise, là, clairement. Il a décidé de cesser d'être dans le flou, et donc ça ne va avoir aucune incidence sur les Républicains. Au contraire, ça me fait penser à une phrase de Giraudoux, « Un seul être vous manque et tout est repeuplé ». Ça va être le cas pour les Républicains.
Ah ben justement, un seul être vous manque, Esteban Ragnard.
Justement, un autre membre des Républicains qui a fait une annonce aussi, c'est Éric Ciotti. Voici ce qu'il a dit, c'était s'il était élu au sujet de son potentiel Premier ministre.
Est-ce que vous avez choisi votre Premier ministre ?
Oui.
Qui ?
Si les Français me font confiance, ce sera Laurent Wauquiez.
Voilà, Laurent Wauquiez. Oui. Laurent Wauquiez.
Non, mais ça paraît...
C'était sûr.
Comment dire, c'est le monde à l'envers. Enfin,
alors,
Laurent Wauquiez, Premier ministre de...
Alors, c'est quand même intéressant, parce que Laurent Wauquiez, c'est donc le président de la région Rhône-Alpes, qui n'est pas évidemment candidat au Congrès des Républicains, mais qui est un peu dans tous les coups. Laurent Wauquiez, par exemple, il soutient, on le sait, Michel Barnier, qui lui est candidat aux Républicains. Ciotti annonce ce matin que ça pourrait être son Premier ministre. On a le sentiment que la droitisation des Républicains, avec quelqu'un qui a été refoulé de la présidence des Républicains, Laurent Wauquiez, parce qu'il était considéré comme trop à droite, ben, Laurent Wauquiez, il est un peu quand même cité un peu partout. Ça veut dire que lui, qui est dans l'ombre aujourd'hui, pourrait, d'une manière ou d'une autre, maintenant ou dans 5 ans, apparaître plus dans la lumière.
Ouais, une déclaration...
Avant 2027, peut-être. Avant 2027.
Une déclaration sûrement en hommage à un chanteur toulonnais, justement, qui nous a quittés il y a bientôt 20 ans.
Je reviens te chercher,
Gilbert Bécaud.
Je savais que tu m'attendais.
Que tu m'attendais.
Donc est-ce que c'est bien joué en prévision du congrès du 4 décembre ?
Wauquiez est très populaire chez LR.
Et Ciotti qui remonte chez les Républicains, il remonte fort.
Celui qui a très bien joué pour moi, c'est Xavier Bertrand. Il s'est sorti de ce piège, de ce baiser de la mort, vous savez... c'est vraiment le baiser de la mort. Je te soutiens. Je pense que
comme la corde soutient le pendu.
C'était non. C'était même une combination avec Emmanuel Macron derrière pour continuer à entretenir l'ambiguïté. Il s'en est très bien sorti.
François, c'est une grande stratège politique. Non. Je vais en faire aussi. Attention quand même, parce que là, on a dit il y a quelques jours que c'est Barnier qui avait le vent en poupe. Maintenant, on dit que c'est Éric Ciotti. Mais attention.
Il a plu.
Attention. Si Éric Ciotti sortait, pour une raison ou pour une autre, vainqueur au second tour du Congrès des Républicains, là, ce serait, à mon avis, un fiasco pour les Républicains, parce
on
que
est
vous avez déjà le créneau qui est utilisé par, qui est occupé par Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc ça veut dire que Éric Ciotti, désigné candidat des Républicains, son grand risque, c'est de faire un peu une, comme dit Patrick Roger, une ammonite, c'est-à-dire 5% des voix pour la présidentielle, puisque le créneau est déjà occupé
par ça, c'est Xavier Bertrand.
Merci beaucoup, Esteban Ragnard, pour cette chronique de 18h30, notre grand débat. Démission de Renaud Muselier. Les LR sont-ils en train d'imploser ? Vous êtes 67% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre « Libre propos d'un inclassable » publié à la Nouvelle Librairie. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et LCI, et une voix de Sud Radio qu'on est heureux de retrouver, Éric Revel, éditorialiste et auteur de « Fenêtre de tir », publié aux éditions Ring, un excellent essai sur l'autorité qui manque légèrement.
Bah, c'est un essai politique sur 2022, mon cher
sur
Philippe.
2022.
J'entendais tout à l'heure Françoise et Philippe Bilger qui expliquaient que c'était compliqué de...
C'est vrai.
Oui, c'est compliqué, mais moi je suis assez... vous allez dire, bon, il est toujours satisfait de lui-même, mais je suis assez content d'avoir Christophe parce que c'est bien avant le phénomène Zemmour. Moi, je suis plutôt perçu comme un journaliste, bon, libéral en économie, mais plutôt tempéré politiquement. Et là, je pense que les points que je mets sur ces i-là, il y a beaucoup de Français qui se les mettent, comme moi, sur les points sur l'i, parce qu'en réalité, on est submergé par... par une montée de la violence, par une montée, par un effondrement de l'autorité, et tout ça pose des problèmes. Si je rajoute la communautarisation, si je rajoute toutes ces fractures sociales en France, il y a de quoi quand même être inquiet pour la, ouais, pour la société française.
Si je puis me permettre,
c'est le retour de l'ordre que vous aimez pas, Françoise.
Non, ça, pas du tout. Il sait même pas ce que je vais dire. Que Éric Revel et Philippe Bilger me plaisent. C'est une droite que j'aime parce que quel que soit la question existentielle qu'il pose et la question réelle, etc. Il y a, je reprends la glissière de sécurité, il y a, ils verseront jamais dans un certain fossé, je le sais. C'est-à-dire que c'est la droite républicaine qui ne partira jamais dans le mauvais sens de l'histoire. Même si elle est un peu dure et que parfois je pourrais dire qu'elle est réactionnaire, on n'est pas d'accord sur tout.
Mais il y a quelque chose. Constituait les rangs des nouveaux des réactionnaires aujourd'hui.
Il y a quelque chose qui me rassure dans cette droite-là.
Alors, justement, il a utilisé un terme fort, Éric Revel, fracture sociale. Je voudrais rendre hommage à une personne qu'on a eue hier dans Les Vraies Voix, qui n'a pas parlé, il avait entendu, on parlait des restaurants du cœur, on avait Christian, qui nous a appelé, qui disait « je ne fais plus qu'un repas sur quatre », et il disait « je n'ose pas aller au restaurant du cœur par amour propre ». Alors, j'ai eu Christian au téléphone, et on a un auditeur qui nous a appelé, qui s'appelle David, je tiens à lui rendre hommage, parce qu'il a carrément commandé un caddie pour Christian au supermarché à côté de Christian qui habite dans l'Aude.
Ah, ça me touche.
Et qui a un tout petit salaire. Et j'ai eu la responsable des restaurants du cœur qui va se mettre en contact avec Christian. Philippe Bilger a une amie qui m'envoyait des contacts, donc il y a une chaîne de solidarité.
Bravo, Philippe,
qui est en train
bravo,
de se Sud mettre Radio. Suite à cet appel oui. qui nous a tous mis les larmes aux yeux sur Sud Radio. Donc Christian, on est là. David, on vous applaudit. Merci du très beau geste que vous avez fait de commander un caddie pour Christian qui va pouvoir manger à sa faim. Et surtout, il n'y a pas de honte à aller au restaurant du cœur. Et donc, bravo pour cette belle œuvre de solidarité des auditeurs de Sud Radio. Oui, Philippe Bilger, brièvement.
Et je voulais dire, Philippe, qu'à plusieurs reprises, j'ai adoré que Sud Radio règle des problèmes graves ou moins graves par des interventions et une vigilance. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'est pas seulement de la radio qui informe et commente, mais qui agit.
Parce qu'on est proche des gens. À 18h30, notre grand débat d'émission de Renaud Muselier. Les LR sont-ils en train d'imploser? Vous êtes 67% à dire oui. Allez, vous êtes prêts pour deux tours de table de l'actualité rapide,
yes.
Les Vraies Voix?
Eh
bien, c'est parti. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Et c'est pour vous, mon cher Éric Revel. Puisqu'à Grenoble, 11 000 euros ont été sortis, trouvés, pour construire une pergola sur un rond-point de gilet jaune.
Ah oui, alors ça, ça a quand même été quand même une surprise. Donc le maire de Grenoble, Éric Piolle, écologiste, réélu brillamment aux dernières municipales, a décidé d'allouer un budget, vous le disiez Philippe David, de 11 000 euros pour construire sur un rond-point une pergola en dur pour abriter les gilets jaunes. Alors il y a plein de façons de prendre cette information. La première, c'est de remarquer que la pergola est en bois et qu'en général, les écologistes, surtout quand ils sont maires, vous disent qu'il faut surtout pas toucher au bois et au bois mort, parce qu'évidemment, on dépeuple les forêts et on accroît le dérèglement climatique. Mais la deuxième, c'est quand même... une façon assez paradoxale pour un maire de gauche de vouloir régler un problème social. C'est-à-dire que ce n'est pas en installant durablement sous une pergola en dur des gilets jaunes qu'on va résoudre les problèmes sociaux dont vous parliez, Philippe David, c'est plutôt en augmentant les salaires et en prenant des mesures très précises. Bon, voilà, c'est au-delà de la blague, c'est quand même assez désolant de voir, on parlait de caddie offert à des gens qui ne peuvent pas manger tous les jours,
oui.
C'est plutôt désolant de voir que 11 000 euros partent en fumée dans la construction d'une pergola pour abriter sur un rond-point des gilets jaunes qui souffrent socialement, mais qu'on pourrait aider différemment.
Philippe Bilger, rapidement.
Rapidement, je reprends ce que j'ai dit ce matin ailleurs, c'est que dans le combat des Gilets jaunes, il reste des choses aujourd'hui qui me touchent. Et je ne sais pas s'ils reviendront, mais je trouve dommage que l'intervention totalement inopportune, Éric l'a très bien dénoncé, d'un Éric Piolle, d'une certaine manière, porte atteinte à ce que les Gilets jaunes peuvent avoir encore de futur en eux.
Françoise Degoy, rapidement, et après votre tour de table.
Moi, j'entends les arguments d'Éric Piolle, qui les connaît très bien. D'abord, il les a beaucoup soutenus, les Gilets jaunes. Il les a beaucoup soutenus dans sa mairie de Grenoble. Il les a beaucoup soutenus, il les a beaucoup rencontrés. J'entends ce qu'il dit, c'est-à-dire que, voilà, je peux l'entendre. Après, la somme de 11 000 euros, c'est extrêmement choquant. Mais je peux entendre qu'un maire, si vous voulez, soit... très proche de ce mouvement. Voilà, il l'est. Après, c'est La République En Marche, c'est le conseil municipal, on sait comment ça fonctionne. Tout ça a été monté en épingle. Je comprends que moi, j'aurais pas créé une pergola, mais je me serais quand même débrouillé, quand même, pour leur rendre la vie plus facile. Parce que je trouve que, et je rejoins Philippe Bilger, j'aime beaucoup les Gilets jaunes. Je sais que la caricature qui en a été faite, et puis surtout les violences qui ont été multipliées avec les Black Blocs, etc., n'a rien enlevé au cœur battant de cette France là que moi qui me touche profondément.
Françoise Degoy,
qui me touche vraiment.
Très court, Éric.
Oui, non, mais parce que Françoise a raison, personne ne sous-estime la souffrance sociale du mouvement des Gilets jaunes. Il n'aurait pas perduré aussi longtemps, comme on l'a vu l'année précédente, si ça ne correspondait pas à une réalité sociale. Ce que je dis simplement, c'est que si on veut aider les Gilets jaunes, voilà, augmentons les salaires.
Je suis d'accord.
Alors, Françoise Degoy, rapidement, votre tour de table, c'est sur Mediapart qui relance l'affaire Alexis Kohler.
Eh ben, on est à l'autre monde, on est dans la France qui va très bien. Moi, je n'ai jamais vu un président qui est cerné par deux affaires que je trouve terribles pour la présidence de la République. La première, c'est bien sûr Alstom, les conditions de la vente d'Alstom quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie et des finances. La seconde, c'est ce secrétaire général qu'il considère comme son jumeau. Vous savez que Emmanuel Macron dit d'Alexis Kohler, c'est la seule personne que je connaisse qui est plus intelligente que moi. Donc on voit à peu près le niveau où ils se trouvent tous les deux.
Vrai.
C'est complètement délirant. Et donc Alexis Kohler, par ses liens familiaux, de son épouse et de sa mère, pardon, est absolument lié familialement à la grande entreprise MSC de croisière, qui est un des deux géants dans le secteur. Et une nouvelle note vient relancer le fait que, au fond, la position de Alexis Kohler aurait avantagé les affaires familiales.
Je
termine en disant que vraiment, c'est indigne la façon dont les médias n'en parlent pas.
Alors justement,
je pose une toute petite question. Pourquoi les auteurs sérieux, documentés, qui sont Davet et L'Homme, du Monde, qui ont publié un livre qui décortique ces affaires de manière très précise et très argumentée et très documentée, pourquoi au-delà d'une ou deux grosses sorties médiatiques on n'entend plus parler de ce livre? Je pose la question parce que...
Il est en tête de toutes les ventes. On n'entend plus parler.
Dans les médias, on n'entend plus parler.
On sait pourquoi.
Et ben voilà.
Voilà. On sait.
Philippe
merci,
Bilger. Philippe
voilà.
Bilger, très rapidement. Que fait le parquet national financier?
Ça va pas du tout.
Mais le parquet national financier prend son temps. Il réfléchit.
Et comme chantait Fernand...
C'est le fût du canon qui met un certain temps à se refroidir.
Voilà.
Comme chantait Fernand Sardou, aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Tout de suite, les vraies voix, on va parler du choc de ce soir. Manchester City, Paris Saint-Germain. Oui, là, c'est un match, on peut dire... où le PSG est sur la corde raide.
Attendez, on parle d'Alstom et vous êtes en train de nous interrompre pour parler de ce match idiot.
Non, c'est un match idiot.
Qu'on va perdre.
Oui. Non, c'est pas certain. Parce que là, il faut absolument gagner. Sinon, PSG pourrait être seconde poule et se prendre en huitième de finale. Le Bayern, le Real Madrid ou encore Chelsea. On se retrouve tout de suite avec Clément Pernia, journaliste sportif, auteur du livre « PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand ».
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Et oui, duel au sommet ce soir en Ligue des Champions. Le PSG se déplace sur la pelouse de Manchester City pour aller chercher la première place du groupe. Un match marqué par les rumeurs de départ du coach parisien Mauricio Pochettino. Nous sommes en ligne avec Clément Pernia, journaliste et co-auteur du livre PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand. Bonsoir Clément.
Bonsoir Philippe, je suis désolé d'interrompre votre... votre débat pour un match nul, apparemment. Mais
non, je plaisantais, je plaisantais.
Ah bon, ça sera 0-0 ?
Non, je plaisantais. On était en train, pour tout vous dire, on peut vous dire, on était dans les conjectures avec Zizou. C'est qu'il y a 4 heures, il est au PSG, il y a 5 heures, il n'y est plus, il y a 2 heures, il y est à nouveau, il y a 1 heure, il n'y est plus. Donc si vous avez des infos, allez-y.
Bah, allez-y. Alors pour ce soir, match au couteau, il faut finir premier de poule et donc il faut gagner. Pour éviter, je ne sais pas, le Bayern, le Real ou Chelsea en huitième avec match retour à l'extérieur.
Et ça va être d'autant plus dur que le PSG fait face ce soir à la meilleure équipe d'Europe actuellement. Je pense qu'on connaît tous Manchester City et sa force de frappe ces dernières années. Jamais l'équipe de Guardiola n'a été aussi forte qu'actuellement, où il remporte tout, où il pratique un football absolument hallucinant, fait de passes, de mouvements. Guardiola disait cette semaine que ses joueurs ne bougeaient pas, que c'était la balle qui bougeait. Mais en réalité, c'est les deux. Et Manchester City n'a jamais paru aussi hégémonique, que ce soit sur la scène anglaise et sur la scène européenne.
Philippe Bilger.
Clément, vite, une première question. Ce que vous venez de dire est évident, mais est-ce que l'absence de De Bruyne ne va pas peser ? Deuxième question, est-ce qu'à votre avis, le PSG a une organisation tellement délétère qui fait peur aux entraîneurs à cause de la présence du Qatar ?
Alors, la première question, effectivement, De Bruyne, ça peut jouer. Alors oui et non, ça peut jouer parce que De Bruyne, c'est un peu le bourreau du PSG. À chaque fois qu'il joue contre le PSG,
à chaque fois il marque ou il fait une passe décisive.
Voilà, exactement. Donc là-dessus, si on est un peu superstitieux, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. Après, le Manchester City de Pep Guardiola est un tel collectif que en fait les joueurs se fondent dans l'animation de jeu et justement, c'est pas l'animation qui dépend des joueurs et des individualités. Donc malgré tout, je pense qu'ils vont très bien s'en sortir sans lui. La deuxième question, je l'ai oubliée, désolé. Est-ce que vous pouvez me la rappeler?
Est-ce que l'organisation du PSG est tellement compliquée et fait peur aux entraîneurs parce qu'il y a le Qatar ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lié au Qatar de manière inhérente. En tout cas, c'est lié à l'organisation du PSG, à l'institution du PSG, qui fait que depuis une dizaine d'années, elle a placé ses individualités, ses stars, ses recrues au-dessus de l'institution. Et n'importe quel entraîneur qui vient diriger cette équipe doit faire face à ça et a énormément de difficultés à mettre en place son jeu et à être au-dessus de ses individualités. Donc ça rend compliqué la mise en place d'une stratégie à moyen et à long terme.
Ouais. Éric Revel.
Alors Clément, j'ai adoré la formule de l'entraîneur de Manchester que vous rappeliez, c'est pas les joueurs qui bougent chez la balle, ça, je trouve ça fantastique, ça veut dire effectivement ce que ça veut dire. Mais sur la stratégie footballistique du PSG, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils en ont pas. Il n'y a pas de système de jeu au PSG. Chacun fait un peu ce qu'il veut. En face de ça, une stratégie très affûtée de Manchester, on a tout à craindre pour le PSG, parce qu'une star un peu moins en forme, quand il n'y a pas de système de jeu, ça fait un fiasco à l'arrivée.
Vous touchez du doigt le problème du PSG cette saison, c'est-à-dire que il y a énormément d'individualités, de superstars. Il y a peut-être les trois meilleurs joueurs du monde avec Messi, Neymar et Mbappé. Mais la Ligue des Champions, ça se joue sur d'autres choses, d'autres aspects. Ça se joue sur la dimension athlétique, ça se joue sur le collectif, ça se joue sur le repli défensif. Et le PSG, force est de constater qu'il défend aujourd'hui en Ligue des Champions avec 6 ou 7 joueurs. Donc forcément, ça crée des déséquilibres. Mmh. On a des joueurs qui sert techniquement quand le PSG a le ballon, c'est magnifique parce qu'ils se trouvent, même s'ils ne se connaissent pas, ils se trouvent dans un mouchoir de poche. Mais quand il faut jouer un peu plus en équipe, un peu plus en bloc, là, c'est plus compliqué parce qu'on a un tiers de l'équipe qui ne défend pas. Donc oui, c'est plus compliqué que si on a des joueurs qui se fondent dans un collectif, effectivement.
Françoise Degoy.
Oui, on en parlait avec Philippe David qui disait une chose très juste. Je lui vole sa réflexion que je trouve intéressante. Il disait parfois, il y a des matchs comme ça qui deviennent les matchs de référence. Je pense au 15 de France. C'est le match de référence du 15 de France. Samedi face aux All Blacks. Donc est-ce que ce soir, il n'y a pas cet espoir justement de créer, l'enjeu est tellement fort, de créer ce fameux match de référence qui effacerait ce travers incroyable d'individualité, de génie, mais d'incapacité finalement à jouer véritablement ensemble.
Oui, effectivement, on attend un peu ce match référence cette saison. Alors deux choses, déjà le PSG va mieux depuis deux matchs dans le jeu pratiqué, ça faut quand même le souligner parce que c'était vraiment mauvais avant ces 15 derniers jours. Et la deuxième chose surtout qui est très importante, il ne faut pas l'oublier, le PSG a battu Manchester City au match aller. Le PSG a battu 2-0 Manchester City, donc peut-être...
En ayant moins d'occasions que City quand même.
Mais largement.
Ouais, très largement,
il faut le dire. Mais dans la tête de l'adversaire, aujourd'hui, du côté de Manchester City, je peux vous dire qu'on s'en souvient. On se souvient que le PSG les a battus, que le PSG a Mbappé, que le PSG peut être menaçant à tout moment avec Messi. Et oui, ça peut être le match référence côté PSG. À noter aussi, vous l'avez sûrement suivi, il y a deux absents considérables en milieu.
Verratti et Wijnaldum.
Et ça peut peser, ça peut rendre encore plus difficile la pratique d'un jeu référence et d'un match référence cette saison.
Ouais, même si je n'ai jamais compris, mais ça c'est un aparté, j'ai jamais compris cet engouement pour Marco Verratti, mais je me trompe probablement.
Je trouve que c'est un métronome Verratti, voilà, je ne sais pas vous, Philippe Bilger, Eric Revel.
Cette référence-là en équipe italienne.
Quand Verratti ne joue pas,
ça va moins bien. Eric Revel.
Verratti, il est quand même extrêmement souvent blessé au PSG. En revanche, moi, pendant le championnat d'Europe, je l'ai trouvé lumineux avec...
Avec l'Italie.
J'ai trouvé très très bon.
Oui, mais il n'est pas fait pas partie. Par exemple, c'est marrant, il fait pas partie des priorités de l'entraîneur italien, par exemple.
Le mot de la fin, Clément Pernia.
Non, mais c'est très
Verratti, juste c'est plus un coup dur que Wijnaldum quand même.
Oui, complètement. Mais c'est très juste ce qu'il avait dit. En fait, Verratti est lumineux, est excellent quand il joue les gros matchs avec le PSG. Le problème, c'est qu'il en joue 1 sur 4.
Voilà.
Donc on ne peut pas lui faire confiance et ça rejoint. Ce que vient de dire, je ne sais plus
Françoise, sur le fait qu'en équipe italienne, il est
exactement,
absolument pas.
Exactement,
il
vous
pas
avez
une
totalement raison. Vous avez totalement raison. Ça n'est pas du tout un atelier de l'équipe italienne.
On va prendre le pronostic des vrais voix,
et
Philippe.
Il aura un carton jaune.
Ah ben non, là il joue pas, donc il va prendre un carton jaune. Enfin,
et le goal, c'est qui ce soir?
On n'a pas encore l'info.
C'est Donna.
On n'a pas l'info. A priori, Donnarumma revient d'une gastro, donc c'est un peu compliqué pour lui. Navas a été exclu ce week-end, mais est disponible ce soir.
Ça compte
donc,
pas.
Donc, on ne sait pas, ça change tout le temps. Voilà, effectivement, ça change tout le temps, donc on ne sait pas. Peu importe, j'ai envie de dire, les deux sont d'un très haut niveau.
Eh bien, écoutez, on espère qu'on va gagner.
Pronostic,
très vite. Philippe Bilger.
2-1 pour Manchester.
Françoise.
Je mets 1-1. Non, 2-2. 2-2. Égalité.
Éric Revel.
3-1 Manchester.
Clément Pernia.
2-0 pour le PSG.
Eh bien, moi, je mettais 3-1 pour le PSG. On verra qui a raison.
Bravo.
Dans quelques instants, notre grand débat d'émission. Et merci beaucoup à Clément Pernia, auteur d'un excellent livre. PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand. Tout de suite, notre grand débat d'émission de Renaud Muselier. Les LR sont-ils en train d'imploser? Vous êtes 66,7% à dire oui.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Si on ne défend pas ce que l'on croit juste... Ce pourquoi on s'est battu toute sa vie, toute ma vie, je me suis battu contre le Front National. Et là, on dit, sans que personne ne réagisse, non, ne touchez pas Ciotti, vous savez. Touchez pas à ça. Mais c'est, on va perdre.
La conséquence, elle est simple, je vais quitter les Républicains.
Tout éclate, tout explose jour et nuit.
Vous avez reconnu Claude François, rien ne va plus chez les Républicains.
Est-ce qu'on peut avoir la musique, c'est quand même vachement plus marrant.
Jamel, vas-y, mets la musique.
C'est drôle, sans comme une fièvre.
Rien... Ah bah oui, il ne sent comme une fièvre. Rien ne va plus chez les Républicains. Ce matin, c'est le président de la région PACA, Renaud Muselier, qui a décidé de quitter le navire. C'est un autre taulier du parti qui s'en va après Christian Estrosi et Robert Falco, tous en PACA d'ailleurs. Ce après une tribune publiée dans le JDD dimanche dernier, où des maires LR prenaient fait et cause pour une réélection d'Emmanuel Macron. Les LR sont-ils en train d'imploser? Eh bien vous êtes 67,1% à dire oui. Avec nous, une des vraies voix qu'on connaît bien, Luc Gras, politologue et plutôt spécialiste de la droite. Bonsoir Luc Gras.
Bonsoir Philippe.
Le départ de Renaud Muselier ce matin, c'était la conséquence de la fin de non-recevoir de Xavier Bertrand hier soir sur les réseaux sociaux à son soutien, ou c'était, à votre avis, prévu d'avance?
Ça a accéléré le mouvement. Vous savez, Renaud Muselier, il est bien connu dans le milieu politique pour cette célèbre réplique. Un journaliste lui avait demandé « Monsieur de Villepin est ministre des Affaires étrangères en 2002 et vous êtes secrétaire d'État aux Affaires étrangères, comment ça va s'organiser ?» Et il avait répondu « C'est très simple,
il fait
monsieur
tout,
le journaliste, Dominique de Villepin s'occupe de tout
et
moi je m'occupe du reste.
» C'était très drôle, je m'en souviens.
Et voilà en quelques mots la philosophie politique de Renaud Muselier. Il a, je vous le rappelle, été le successeur de monsieur Estrosi sans avoir été élu directement à la présidence de la région PACA.
C'était dans l'ancienne mandature.
Il avait pris la suite de monsieur Estrosi. Donc voilà, on est dans une situation où, certains disent, c'est l'écume des jours, mais ça ne va pas traumatiser la situation politique nationale ni de LR.
Philippe Bilger.
Mon cher Luc, là je vous rejoins, ce ne sera pas une implosion, parce qu'il ne faut pas exagérer l'importance de Renaud Muselier, mais ce sera une clarification. Et pour ma part, comme j'ai beaucoup de mal en ce moment à rester dans la froideur de l'analyste, je vais plutôt dans la chaleur de l'engagé. Je commence à en avoir un peu assez de ces transfuges. Je pense à Estrosi, je pense à Muselier, je pense même par certains côtés à l'entretien d'Édouard Philippe ce matin, qui donne des leçons de morale aux Républicains. J'en ai par-dessus la tête sur ce plan-là, mais ça n'est jamais que mon avis, mon cher Philippe David, donc il compte peu à vos yeux.
Mais que nenni, Luc Gras.
En 2010... Qui était le directeur de campagne de M. Mariani dans cette belle région du Sud ? M. Renaud Muselier. Renaud Muselier, pour l'avoir bien connu dans ce milieu politique, est quelqu'un de très sympathique, une la faconde. J'aurais des tas d'anecdotes à vous raconter sur lui. Mais Renaud Muselier s'est jamais signalé comme étant un idéologue. Et donc, ce sont des enjeux locaux. C'est parce que localement, il y a M. Ciotti qui est en guerre avec M. Estrosi, qui était avant M. Muselier à la tête de la région. Mais quand vous demandez à n'importe quel militant LR ou pas LR quelles sont les convictions politiques de Renaud Muselier, elles sont très souples. Il a un très bel héritage familial avec l'amiral Muselier, mais lui-même, il peut très bien être à LR comme être à l'REM. Ce n'est pas choquant, puisque c'est quelqu'un qui est essentiellement un pragmatique.
Françoise Legoix.
Il a une qualité, Renaud Muselier, bien sûr, c'est son héritage familial. Hein. On rappelle quand même que le père de Renaud Muselier, Émile Muselier, a été le premier officier à rejoindre le général de Gaulle. C'est lui qui organise les forces françaises libres navales. Donc, il y a un très grand héritage familial dont il a toujours été à la hauteur, Renaud Muselier, en ce sens aussi que c'est quelqu'un qui est très bien aimé dans son parti depuis toujours. Et c'est quelqu'un, voilà, qu'on choie. Alors, il est assez élastique entre Emmanuel Macron, mais voilà, c'est un centriste de droite ou un droite penchant vers le centre, comme on veut. Et moi, je rejoins Philippe Bilger, je crois qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Tout ce qu'Emmanuel Macron a pu vendanger à droite est déjà vendangé. Comprenez ? C'est déjà vendangé. Renaud Muselier, c'est déjà fait. Ouais. C'est évident. Christian Estrosi aussi. Hubert Falco, évidemment. Tous les gens qui sont partis, Bruno Le Maire est au gouvernement.
Même ceux qui ont signé la tribune dans le JDD dimanche dernier.
C'est des maires. Oui, c'est des maires. Mais c'est des maires. Je veux dire, je pense que véritablement, il a un problème là-dessus, d'ailleurs, Emmanuel Macron. Parce que là, on voit bien qu'il y avait une offensive avec Renaud Muselier pour finalement ficeler complètement Xavier Bertrand, qui s'est très bien sorti de ce chausse-trap. Mais je veux dire par là que, pour moi, je soutiens l'idée que ça ne va pas faire tellement tanguer les Républicains, parce que tout est déjà... Les gens qui devaient partir sont déjà partis et ne reviendront pas vers les Républicains.
Luc Gras.
Alors, je suis heureux d'être d'accord avec Françoise. Oh. On est à l'étiage. Tous ceux qui devaient partir sont partis. Et puis moi, je vous rappelle quand même que Renaud Muselier, c'est la bande des jeunes Chiraciens que j'ai bien connus, avec François Baroin, avec...
Michel Noir, il y avait Michel Noir aussi dans cette histoire.
Mariani, ça c'était encore avant. Hein. Ça,
ah, avec Carignan, c'était la marche dans la Chartreuse.
La génération d'après.
La génération
de ceux qui ont 55-60 ans aujourd'hui, c'est Christian Jacob. Christian Jacob, un grand ami de Renaud Muselier.
C'est vrai.
Je vous rappelle qu'il y a aussi le coup de l'âne avec Lisnard, parce que Renaud Muselier, qui était en guerre avec Ciotti localement, il faut bien comprendre, c'est un enjeu local. Hein. C'est Renaud Muselier et Estrosi contre Ciotti. Ciotti soutenant Lisnard, Lisnard ayant l'appui de François Baroin, vous voyez, c'est une guerre picrocolline. On est là entre gens de la même famille qui ont à peu près les mêmes convictions, qui hier soutenaient tout Chirac quand Chirac parlait des odeurs dans les cages d'escalier, et qui aujourd'hui font des cris d'Orphée si on parle de la droite dure, etc. Donc tout ça n'a pas beaucoup de sens. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des positionnements, et que si demain Renaud Muselier veut pouvoir sauver sa région, il faudra qu'il fasse réellement cette fois-ci avec La République En Marche.
Je voulais juste dire, le positionnement, il est simple. Il y a ceux qui font le pari qu'Emmanuel Macron va être réélu, et puis il y a ceux qui pensent que la droite peut gagner la présidentielle. Malheureusement, ça ne se joue pas vraiment à gauche, on verra, sauf miracle, mais je crois que c'est quand même que ça. Hein. C'est vraiment déjà la soupe pour les uns et pour les autres.
Alors, c'est assez intéressant parce que la réalité, le questionnement aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va y avoir à l'issue de la désignation d'un candidat de LR une dynamique qui va s'amorcer à partir de LR qui pourrait leur permettre d'être au deuxième tour. Donc il y a un positionnement, comme dit Françoise, par rapport à cela, c'est très clair.
Éric Revel.
Alors moi, il y a plein de choses que je voudrais dire. D'abord, l'ouverture à l'opposition, c'est une vieille antienne. Souvenez-vous de François Mitterrand qui avait fait de Jean-Pierre Soisson, qui était un centriste, un ministre. Il avait écrit un très joli livre qui s'appelait « Mémoire d'ouverture ». Jean-Pierre Soisson, qui était voilà. Bon, Nicolas Sarkozy a fait la même chose avec en essayant de démonter des gens de gauche. Bon, voilà. Emmanuel Macron fait la même chose avec les responsables politiques du Sud. Bon, il y a rien, à mon sens, de très neuf sous le soleil. C'est bien navrant, évidemment, pour les Républicains. Moi, je pense qu'il faut quand même mettre en avant le fait, on ne sait pas si si ce congrès sera un tremplin, mettra en place une dynamique, mais déjà avec 150 000 je crois adhérents qui vont voter plus 40, plus 50 000, c'est quand même un succès pour Christian Jacob, me semble-t-il. Et puis je ferai une double remarque pour terminer. La première, c'est que évidemment le sud de la France est plutôt une région de droite, voire de droite forte.
C'est les laboratoires,
ça veut dire que Renaud Muselier, Hubert Falco, bon, peut-être qu'il ne briguera pas un nouveau mandat à Toulon, mais où Christian Estrosi joue une partie de leur avenir politique quand même, dans l'éventualité où Emmanuel Macron ne serait pas réélu président de la République. S'il l'est, bah, ils auront gagné le poker, et peut-être qu'ils deviendront des membres influents du futur gouvernement d'Emmanuel Macron, nouveau président de la République. Si Emmanuel Macron n'est pas réélu, il y a un risque politique, évidemment, pour Muselier, pour Christian Estrosi et pour Hubert Falco. Puis dernière chose, le fait que Renaud Muselier apporte son soutien à Xavier Bertrand, pour moi, veut dire beaucoup de choses. Parce que Renaud Muselier, il a peut-être des convictions, vous disiez, cher monsieur, à géométrie variable, mais c'est un homme qui sait faire de la politique. Et le fait qu'il essaie d'adouber Xavier Bertrand dans une sorte de baiser de la mort, ça prouve pour moi une chose, c'est qu'effectivement, celui qui est le plus craint par la Macronie chez les Républicains, c'est Xavier Bertrand. Et que s'il n'avait pas eu ce réflexe politique immédiatement de dire « je ne veux pas du soutien de Renaud Muselier », il aurait été piégé, et peut-être même pas présent au second tour du Congrès Les Républicains du 4 décembre.
Luc Gras.
C'est tout à fait juste tout ce qui a été dit, et la suite, le complément, c'est de dire que précisément, en ayant eu cette attitude-là vis-à-vis Xavier Bertrand, et la réponse de Xavier Bertrand, précisément, peut-être que Xavier Bertrand va l'emporter au sein des Républicains, parce qu'il a su dire non à Muselier et du coup être adoubé par l'ensemble des militants qui évidemment vont apprécier son geste.
Oui, je pense que je vais vite, mais je pense et je parle peut-être avec Philippe Bilger et évidemment avec Éric Revel. Mon sentiment, vous savez, la présidentielle, c'est une histoire de personnes et de construction d'histoire. On a la coutume de le dire, mais il y a quelque chose qui se construit à petits cailloux avec Xavier Bertrand. Il faut quand même être honnête pour le dire. C'est quelqu'un qui a regagné sa région. Alors, il n'est pas flamboyant, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans l'opinion qui se construit du petit caillou, du déterminé, de l'obstiné, de celui qui continue quand même sur son chemin, et puis qui insiste sur le fait qu'il n'y a que lui qui peut battre Emmanuel Macron. Je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se construire dans l'opinion autour de Xavier Bertrand.
Juste une précision. Bon, évidemment, c'est les militants, les Républicains qui décideront de qui ils veulent envoyer. Mais où je partage le point de Françoise, c'est que vous vous souvenez sans doute de cette étude de l'Institut Jean Jaurès, qui est un think tank de gauche, qui, parmi les critères primordiaux qui étaient opposés à Emmanuel Macron, il y avait ce mot très fort qui était le mot de détestation. Il y aurait une détestation, d'après Jean Jaurès, l'Institut, d'Emmanuel Macron. Si c'est vrai, regardez bien. En fait, vous avez en face de vous Emmanuel Macron, qui est un banquier d'affaires, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais qui est un banquier d'affaires, qui est un Parisien, et qui est une sorte de gravure de mode. Ben, en réalité, Xavier Bertrand, s'il y a détestation de ce type d'image, c'est exactement la contraposée. Je vais faire un peu caricatural. C'est un petit, plutôt embonpoint. Oui. C'est un type de la société civile. Il était agent d'assurance. C'est un type qui a les pieds dans la glaise. C'est un type qui a vécu dans des HLM à Troyes. C'est un type du peuple, finalement. Donc, si Françoise a raison et que c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme et d'un peuple, eh bien, s'il y a un rejet d'Emmanuel Macron, celui que les Français peuvent pouvoir repêcher parce qu'il est comme eux, c'est l'opposé d'Emmanuel Macron qui rejetterait. Eh ben, c'est un peu le profil de Xavier Bertrand.
On part au 0826-300-300, direction Blagnac. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Et pour vous, la démission de Renaud Muselier est regrettable, mais était attendue depuis assez longtemps.
Oui, 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 de toute façon. Alors, c'est attendu. Alors, je dirais que c'est, moi, je ne le vis pas comme une implosion des Républicains. Alors, je tiens à préciser que je suis au Conseil national des Républicains.
D'accord.
D'accord. Voilà, comme ça les choses sont claires. Et 2-1 pour le PSG avec une forte application de Marco Verratti.
Mais il n'est pas là. Il
sera pas là, malheureusement, il ne sera pas là.
On écoute Frédéric.
Voilà. Mais au contraire, je dirais que c'est une renaissance des Républicains. Une renaissance pourquoi ? Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une ligne claire, d'avoir une ligne forte. Et il y avait une certaine pub à un moment donné, c'était le pouvoir de dire oui. Et bien nous, il y a également le pouvoir de dire non. Non, on refuse les alliances. Non, on reste ferme par rapport à notre décision et notre ligne de conduite qui a été donnée par Lionel Jacob. À partir de là, il faut savoir que Renaud Muselier a certes œuvré pendant le parti, dans la famille pendant pas mal d'années. Il est également souple. Il doit peut-être ça à sa carrière de karatéka, mais il est très souple en la matière. Et il n'hésite pas d'aller contrecarrer Lisnard dernièrement, et puis après de demander l'union sacrée autour de lui.
Bon, oui.
En étant, quand on est un candidat de la famille, à un moment donné, quand on est dans une famille, on accepte ses règles, on accepte ses fonctions, et si on n'est pas d'accord, on s'en va. On s'en va et on prend sa liberté, on fait ce que l'on veut. Mais on peut pas user à un moment donné de la déontologie des candidats, du parti, de etc., des militants, et puis un peu faire ce que l'on veut et aller un petit peu de droite et de gauche.
Frédéric, restez avec nous, je vais faire réagir Philippe Bilger. Vous avez entendu Frédéric de Blagnac qui dit une chose intéressante. Finalement, ça marche pas le en même temps chez LR, mais ça marche chez LREM, c'est ça le message ?
Oui, mais sûrement, mais si vous le permettez, Philippe, je voudrais rejoindre Françoise et Eric. Et contrairement à la condescendance dont certains accablent Xavier Bertrand, s'il y en a un qui a une chance, s'il est choisi le 4 décembre pour battre Emmanuel Macron, comme l'a très bien aidé Eric, c'est le contraire de celui-ci qu'il faut choisir. Mais ça n'est pas gagné du tout.
Oui, parce que, attention, hein, parce que là, je vois bien que tout le monde s'enflamme pour Éric Ciotti.
Non, vous faites Xavier Bertrand, là.
Non, non, mais... les médias s'enflamment, évidemment, parce que tout est bon aussi pour bordéliser la primaire des Républicains. Je dis ça parce que nous, j'ai bien connu ça avec la gauche, tout était bon pour bordéliser la primaire de la gauche. Je veux dire par là que je parle mal, mais c'est la réalité. Tout ça, tout est politique. Attention, avec Éric Ciotti, effectivement, c'est Benoît Hamon le retour. Moi, ma conviction, c'est que les gens qui sont venus s'inscrire pour voter veulent, comme tous les militants du monde, et Philippe Bilger ne sera pas d'accord avec moi, comme Éric Revel, veulent gagner. Donc, il me semble encore et toujours que, malgré tout ce qui a été dit, je continue à penser qu'à la fin, dans la dernière ligne droite, c'est Bertrand qui gagne.
J'ose juste, et je vais rappeler un très mauvais souvenir à Françoise, mais j'ose juste espérer, évidemment, que tout ça sera extrêmement transparent, que les appareils politiques des LR comptabiliseront bien les votes dans une grande transparence, parce que je me souviens d'une bataille au plus haut niveau au Parti Socialiste.
2008, le Congrès.
Ségolène Royal à 20h était en tête et on s'est réveillé le matin et c'est Martine Aubry qui l'emportait de 123 voix.
108.
Alors, 108, pardon.
Avec une nuit entière où Solferino était fermé.
Voilà. Oui. Donc, et je ne dis pas que, mais et je me pose des questions. Voilà.
Le mot de la fin, rapidement, à Lugra, et on remercie beaucoup Frédéric de Blagnac.
Alors, deux choses. Vous rappelez qu'en 1970, à la mort du général de Gaulle,
on avait
écrit « Balle tragique à Colombin à mort ». Puisque le sujet aujourd'hui, c'était Muselier et l'impact sur LR, là, ce serait un petit peu en 2021, balle tragique à Marseille, à mort Muselier. Parce que politiquement, à partir du moment où il n'est plus le président LR de PACA, il pèse plus grand-chose politiquement. Et enfin, un dernier chiffre à rappeler aux auditeurs. En 1981, Valéry Giscard d'Estaing, à peu près à cette période de l'année, avait à peu près les sondages d'Emmanuel Macron.
Oui, absolument.
Et deuxième point, j'ai bien connu, puisque j'étais très, très impliqué dans la campagne à cette époque, Jacques Chirac, en 1995, au début de l'année 1995, trois mois avant l'élection, faisait 12 à 14%. Donc ça veut dire que c'est très ouvert. La seule question, est-ce qu'il va y avoir une dynamique LR qui va leur permettre d'être au deuxième tour ? Et dans cette situation-là, évidemment, comme l'ont dit tous les participants, le profil de Xavier Bertrand peut être une très bonne carte contre Emmanuel Macron, le candidat d'une certaine France.
Merci beaucoup, Lugra, politologue et par ailleurs vraie voix. Verdict sur Twitter, démission de Renaud Muselier. Les LR sont-ils en train d'imploser? Vous êtes 67,9% à dire oui. De suite, on va prendre avec Esteban Ragna la direction de Gragnac dans la Haute-Garonne, où la mairie a pris une initiative vraiment originale.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Éric Revel. On part, mon cher Esteban, en Haute-Garonne, dans le village de Gragnac.
Oui Philippe, dans ce petit village de 142 habitants exactement, aucune banque, figurez-vous, n'a souhaité installer un distributeur automatique de billets. Il fallait parfois faire des kilomètres pour aller retirer de l'argent. La mairie a dû prendre à ses frais la location d'un distributeur. Pour en parler avec nous, nous sommes avec le premier adjoint à la mairie de Gragnac. Bonjour Didier Aversan.
Bonjour.
Didier, première question. Pourquoi aucune banque n'a souhaité installer un distributeur?
Ah, parce que pour eux, c'était pas rentable. Ils ne pouvaient pas mettre un distributeur de billets sans mettre une agence. Et bien sûr, une agence n'était pas, pour eux, n'était pas rentable sur le secteur.
Quoi. Non. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez pris à vos frais. Combien ça vous coûte par mois? Parce que la location, c'est pas donné.
Alors, la location n'est pas donnée, c'est une location dégressive en fait, puisque plus il est utilisé, moins on paye. Donc ça peut aller de 300 euros jusqu'à 1500 par mois.
1500 euros par mois. Est-ce que c'était une demande de la population?
Ah oui, c'était une très forte demande de la population. D'ailleurs, nous ne sommes pas 142 habitants quand même. Pardon. Nous sommes 1800.
Ah, j'ai oublié un zéro, pardon.
Ouais. Mais c'était une forte demande de la population depuis plus de 15 ans. Et c'est une opportunité que nous a offerte la Brinks pour installer ce point de cash.
Aujourd'hui, il est utilisé?
Très, très. Au-delà de nos espérances, puisque on s'aperçoit que on serait dans les loyers les au plus bas, quoi, pratiquement.
Est-ce que ça a permis, mine de rien, de relancer un peu la vie dans le village pour payer les commerçants, les coiffeurs?
C'est ça, les commerçants également étaient très, très, très intéressés par cela, puisque il est implanté à côté d'une boulangerie, et il était obligé de prendre la carte pour une baguette de pain à 1 euro. C'était pas rentable pour lui et c'est pas forcément très intéressant pour les gens non plus, quoi.
Philippe Bilger, quand vous voyez cette France rurale quelque part qu'on abandonne, là c'est pas les services publics, c'est les services privés, les banques qui veulent pas y aller, ça vous inspire quoi?
Ah mais ça m'inspire que tout va à volo, la France rurale, j'ai une affection toute particulière pour elle, pour mille raisons. Et est-ce que je voudrais demander, Esteban, à monsieur le maire, au fond, est-ce que, premier adjoint, est-ce que en dehors de ce problème bancaire, vous avez eu beaucoup de départs, de fermetures de commerçants, ou est-ce que vous pouvez maintenir une activité suffisante dans ce village?
Non, on a cette chance. C'est vrai qu'on n'est pas très loin de Toulouse, hein, on est à 17 km du centre-ville. Donc tous les commerçants sont restés et le maire s'est battu pour garder la poste qui était également indispensable. Et on a une poste ouverte tous les après-midi.
Donc on est un village. François Degois, Éric Revel, la France rurale oubliée.
Ouais, mais parce que je comprends Philippe Bilger, parce qu'on en vient tous de cette France. Moi, je viens du Sud-Ouest. Philippe, il vient de l'Alsace, plutôt. Donc, voilà, on connaît tous bien cette France. Et c'est une des. Je pense que cette fracture-là, il faudrait la reconquérir, il faudrait la réduire, parce qu'elle est aussi, pourvoyeuse de défiance démocratique. Elle est pourvoyeuse d'abstentionnisme. Elle est pourvoyeuse d'un vote radical, quel qu'il soit d'ailleurs, ou d'une abstention radicale. Je pense que c'est vraiment... Edgar Morin, avec lequel je ne suis pas d'accord sur tout, a eu une phrase très belle. Un jour, il a dit « Qu'est-ce que la concorde civile ?» Finalement, c'est réconcilier d'abord et avant tout. Il disait ça déjà il y a 30 ans. La France des villes et la France des champs. Et je trouve qu'on n'a pas réussi. Aucun président, la gauche, la droite, n'a réussi cette recomposition. Cette recomposition.
Éric Revel.
Oui, c'est la France périphérique du géographe Christophe Guillouis. C'est l'archipélisation de la France de Jérôme Fourquet. C'est tout ça en même temps. Mm-hmm. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que nos territoires souvent sont déshérités et dans un silence assourdissant. Ces populations vivent leur détresse sociale, leur détresse de services publics ou de services privés. Vous avez d'autres régions en France qui sont plus sous les feux de l'actualité, qui, elles, sont capables de manière violente d'exprimer ce besoin social. Je veux dire par là qu'on oublie nos territoires, on oublie nos régions déshéritées, qui souffrent la plupart du temps en silence, qui ne la ramènent pas, qui ne sont pas dans la casse ou l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et c'est vrai que les Parisiens n'existent pas vraiment. Les Parisiens, ce sont des gens qui, socialement, sont montés historiquement de la région, des provinces, pour trouver un job à Paris. Je suis Charentais. Vous savez, en Charente, il n'y a pas que la Charente-Maritime, il n'y a pas que l'île de Ré ou l'île de Léron. Dans ce que François Mitterrand appelait la Charente inférieure, puisqu'avant, la Charente, c'était la Charente inférieure et la Charente supérieure, vous avez toute une Charente pouilleuse où les gens continuent de souffrir, où les gens ont très peu de pouvoir d'achat pour vivre, et où les gens, se sentent abandonnés.
Merci beaucoup Didier Aversin d'avoir été avec nous.
Merci pour ce sujet magnifique.
Merci. Et tout de suite, nos vraies voix du jour, Claudine Denior et Olivier de Bordeaux, qui veulent nous parler de la situation des LR.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Il est resté avec nous, Éric Revel, éditorialiste, auteur de Fenêtres de tir aux éditions Ring. Je le montre à l'antenne. Il est avec nous, Esteban Ragna, qui va suivre de près ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et ça va faire plaisir à Éric Revel, comme il nous a dit il y a quelques minutes qu'il était charentais, parce qu'on va vraiment mettre le cap à l'ouest. Nos deux vraies voix du soir sont Claudine de Niort. Bonsoir Claudine.
Oui, bonsoir Philippe David, bonsoir Monsieur Revel.
Et on prend un peu le cap au sud. Bonsoir Olivier de Bordeaux.
Oui, bonsoir à tous, merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir. Alors vous, c'est à peu près au milieu, entre Niort et Bordeaux. C'est parfait. Vous n'êtes pas trop de l'ouest, vous, Esteban.
Albi, quand même, on peut dire.
Oui, c'est moins l'ouest. Alors, justement, vous voulez débattre du second débat, démission de Renaud Muselier. Les LR sont-ils en train d'imploser? Vous êtes 67% à dire oui sur Twitter. Claudine, est-ce que vous pensez que LR est en train d'imploser?
Oh, moi, je ne pense pas qu'ils sont en train d'imploser, parce que c'est cette belle lurette qu'ils ont déjà implosé. C'est du passé, l'implosion. Pour moi, les cinq têtes de gondole qu'on nous présente, ils sont tous Macron compatibles. Hein, donc
peut-être pas Éric Ciotti quand même.
Ouais, ça serait celui qui serait le moins. Mais moi, je crois que les LR, quand ils sont devenus LR, et puis même avant, quand ils sont devenus UMP, ils ont oublié toute la branche de l'URPR qui était plutôt Seguin de toute cette ligne donc qui a voté contre l'Union européenne.
Donc j'en déduis, vous étiez plutôt séguiniste et vous avez voté non à Maastricht et non au traité constitutionnel européen en 92 et 2005.
Tout à fait.
D'accord.
Tout à fait, et je trouve que ils peuvent s'appeler comme ils veulent, hein, je veux dire UMP, LR ou quoi que ce soit, ils ont complètement délaissé cette branche-là, qui fait que une partie est partie sur le RN, hein, c'était pas mon cas, une autre partie s'est abstenue parce que qu'est-ce que vous voulez, on a eu tous une impression d'avoir été trahis par Sarkozy. Déjà, d'autre part. Et puis, c'est vrai que là, tout ce qu'on nous présente,
ça vous fait pas rêver. On va donner la parole à Olivier de Bordeaux. On va faire réagir notamment Éric Revel. On va faire le point sur les réseaux avec Esteban. Olivier, qu'est-ce que vous répondez à Claudine? Vous êtes d'accord avec elle? Ils sont pas en train d'imploser? Ils ont déjà implosé?
Alors oui, ça m'a fait rire, je trouve que c'est pas mal vu. Je pense pas être dans les mêmes tendances que Claudine, mais c'est la...
Donc vous êtes plutôt à gauche, on peut le dire.
Oui, clairement, mais par contre, je suis très content de l'entendre, parce que moi, la droite que je respecte, c'est précisément une droite républicaine, et je pense que justement, on doit avoir des adversaires qui s'accrochent à leurs valeurs, et... Et je pense que c'est son cas, même si je partage peut-être pas tout son opinion. Mais je crois qu'on est ce qu'on pourrait peut-être partager en termes de constat, c'est la médiocrité ambiante peut-être du débat politique en l'occurrence. Elle disait bon, il y en a qui sont Macron compatibles, il y en a qui sont RN compatibles, parce que c'est un peu le cas de Ciotti par exemple. On est dans une zémourisation du débat. Hein. L'extrême droite est en train de se banaliser grâce aux groupes médiatiques quand même qui font un sacré travail pour ça. Et pour fausser un petit peu cette élection présidentielle. Oui, c'est compliqué pour LR. Moi, je suis assez d'accord. Enfin, c'est fini, j'ai envie de dire. On voit bien à un moment donné qu'il n'y a plus de frontières. Il y a une espèce de porosité entre Macron et entre le RN qui fait précisément qu'ils n'ont plus d'assises.
Alors, c'est magnifique. Alors, Olivier, je schématise. Il y a une porosité. Certains peuvent partir chez Macron, d'autres se rapprocher du RN. On va faire réagir Éric Revel. Je voudrais vous faire réagir sur Claudine et Olivier, notamment Claudine qui dit qu'on n'a pas retenu le vote des Français, des Français du RPR, par exemple, qui avaient voté contre Maastricht en 92 ou contre le traité constitutionnel européen en 2005. C'est vrai qu'on a oublié la branche. Allez, je schématise, Pasqua Séguin.
Ben oui, factuellement, c'est très juste. Les Français avaient, pour les élites politiques du moment, mal voté. Ben, on a refait voter les Français pour être sûr que leur vote soit favorable. Donc c'est vrai qu'à partir de là, il y a eu, je pense, et là c'est ni un problème de gauche ni un problème de droite, mais un problème de la classe politique face au peuple, il y a eu une fracture, une cassure entre la crédibilité de la classe politique, celle qui avait fait campagne pour Maastricht ou contre Maastricht, hein, c'était transcourant, hein, à gauche et à droite. Oui. Là vous avez une vraie fracture politique, me semble-t-il. Et si le divorce auquel on assiste aujourd'hui s'amplifie, même si je pense qu'on a besoin d'une gauche forte, d'une droite forte dans un pays démocratique comme le nôtre, si cette fracture s'amplifie aujourd'hui, eh ben, je crois qu'elle est la résultante des années, de ces deux sujets, de ces deux dates dont vous parliez à l'instant, Philippe David, et je crois que ça va être compliqué. Maintenant, il faut quand même, je le disais en préambule, je pense qu'il faut souhaiter dans un pays comme le nôtre qui est en proie à tellement de fractures sociales, communautaires, identitaires, on a besoin d'un débat démocratique avec des forces de gauche et des forces de droite républicaines. Ça me semble super important. Donc on peut effectivement être extrêmement alarmiste, comme l'est notre auditrice de Niort,
Claudine.
Mais je dirais attention, parce que si on est alarmiste et si on considère que les LR ont explosé ou implosé, si on considère malheureusement pour la gauche, hein, que la gauche est aux abonnés absents, qu'est-ce qui va rester du débat démocratique ? Pas grand-chose, en réalité. Et c'est ça, quand même, qu'il faut craindre pour notre pays, qui est quand même traversé par un paquet de problèmes, comme on n'a sans doute jamais vu dans l'histoire de ce pays.
Avant de retrouver Claudine et Olivier, qu'en dit-on sur les réseaux sociaux, ouais, Stéphane, réagit beaucoup.
Ça réagit beaucoup. Sur Twitter, il y a Nicolas qui nous dit « Renaud Muselier n'est plus de droite depuis longtemps, il est chez LREM ». Et puis aussi, on a JP qui nous dit « Les Républicains implosent par le bon vouloir de Nicolas Sarkozy et Christian Jacob, lesquels rallieront à leur tour la Macronie ».
Sud Radio, il est 19h12, nos vraies voix du soir, Claudine de Niort et Olivier de Bordeaux. On les retrouve dans quelques instants pour continuer à parler du départ de Renaud Muselier des Républicains.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix, Éric Revel, éditorialiste, auteur de Fenêtres de tir, publié chez Ring, est resté avec nous, et Stéphane Ragna est avec nous, et nos deux vraies voix du soir, Claudine de Niort et Olivier de Bordeaux. Claudine, on vous a senti très, vous qui êtes plutôt de droite souverainiste, on va dire ça comme ça, très, très désabusé, vous êtes très nostalgique de Philippe Séguin, par exemple. Est-ce que pour vous, il y aurait un candidat des Républicains qui se rapprocherait plus de votre sensibilité politique?
Alors, je vais répondre déjà à Éric Revel sur le fait d'être pessimiste. Je ne suis pas du tout pessimiste, hein. Pas du tout. Je suis plutôt optimiste, mais je ne suis pas optimiste, si vous voulez, je suis plutôt réaliste. Réaliste par rapport à des centaines de gens comme moi, parce qu'on est quand même assez nombreux, hein, d'ailleurs une bonne partie faisait partie des Gilets jaunes aussi, c'est aussi ça qui a fait sortir les Gilets jaunes d'une certaine façon, et si vous voulez, c'est pas être défaitiste ou c'est pas être pessimiste ou quoi que ce soit. C'est simplement une réalité des choses et puis il faut être un peu objectif à un moment donné. Mais il y a un refus quand même des politiques de le voir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on commence à leur parler de souverainisme, on a Monsieur Macron qui se gargarise avec, mais tout en rajoutant la souveraineté européenne. Dès que quelqu'un commence à prendre du souverainisme, on passe dans l'extrême droite ou on est relégué à je ne sais quel endroit, mais bon, c'est vraiment voilà. Vous voyez, il y a une sensation de non-reconnaissance des voix, une sensation de non-reconnaissance de ce que les gens sont en réalité. Et quand vous parliez tout à l'heure des provinces qui sont oubliées, oui, c'est vrai, on est oubliés, on se tait parce qu'on ne sait pas à qui parler, alors, parce que de toute façon, quand on parle, on nous y écoute pas.
Alors, Claudine, c'est très intéressant vos remarques. Pardon, Olivier de Bordeaux, vous qui êtes de gauche, et est-ce que, clairement, ce que dit Claudine, c'est qu'on n'a pas tiré les conclusions des votes de 92 et 2005. Il y a eu la même chose à gauche ?
Ben oui, moi j'avais voté contre aussi, on a bafoué mon vote, mais c'est intéressant de voir comment on peut avoir des choses en commun d'une certaine façon précisément, parce que j'écoutais ce que disait Madame sur le souverainisme, finalement, et à droite on vante l'économie de marché, c'est pas compatible avec une forme de souverainisme ou de protectionnisme, il faut savoir ce qu'on veut d'un côté. Moi je suis pas... j'aurais été plutôt... On le voit avec ce qui se passe avec la PAC, hein. On voit bien comment on est en train de mettre nos pêcheurs, nos agriculteurs en difficulté. On marche sur la tête, voilà, ils ont construit une Europe économique, pas une Europe de peuple, surtout pas une Europe sociale, et elle est en train de se transformer aussi d'une certaine façon. Il y a une Europe de l'extrême droite qui s'est fait construite là-dessus, hein. C'est le terreau, hein. Moi, je vais vous donner un exemple. J'aime bien prendre cet exemple parce que je trouve qu'il est intéressant. Je suis Algéro-Limousin. J'ai cette chance d'être un beau produit créole français. Et ce que j'ai vu en Algérie dans les années 90, c'est le terrorisme construire sur le terreau de la misère. Voilà, l'extrême droite fait la même chose. Et ça, c'est quand on laisse la place ou quand on laisse les frontières justement s'ouvrir comme ça. Et moi, je crois qu'on a un vrai problème, une crise de valeur, une crise... populaire aussi et social qui est pas loin d'exploser. Moi aussi j'étais gilet jaune, hein, d'ailleurs, alors avec
deux gilets jaunes, un de droite et un de gauche. On va laisser le mot de la fin à Éric Revel. Éric, vous entendez, à droite à gauche, ils disent on a des convergences parce qu'on a voté contre Maastricht et on s'est assis sur notre vote avec le traité de Lisbonne, et quelque part, est-ce que c'est pas finalement comme on disait à l'époque de manière un peu abusive il y a 20 ans au moment de la candidature de Chevènement, les républicains des deux rives?
Bah, si, historiquement, politiquement en France, il y a deux mouvements forts du souverainisme. Il y a un mouvement du souverainisme qui est incarné par Jean-Pierre Chevènement, qui avait commencé au CRS, hein, à la gauche du Parti Socialiste, oui. Et qui a porté pour la gauche ce mouvement souverainiste. Et puis, à droite, l'un des premiers à avoir parlé de souverainisme, c'est Philippe de Villiers, à l'époque, au MPF, le mouvement pour la France qu'il avait créé, qui d'ailleurs lui a porté chance à un moment donné, parce que souvenez-vous qu'il avait, sur ces thématiques de souverainisme, devancer la liste de Sarkozy européenne. Absolument. Avec celle de Charles Pasqua. À l'époque, Villiers était allié à Pasqua. Donc, c'est vrai qu'il y a un point de convergence fort autour de la souveraineté. Et Claudine avait tout à fait raison de rappeler une chose qui m'avait également extrêmement surpris, pour ne pas dire choqué. Quand on entend le président de la République parler de souveraineté et qu'il parle de souveraineté européenne, je ne vois pas comment on peut être souverain si on est pris dans un amalgame européen qui nie la souveraineté, justement, des peuples.
Merci beaucoup à nos deux vraies voix du soir, Claudine de Niort et Olivier de Bordeaux. Dans quelques minutes, on va retrouver DJF Audebert pour devenir plus utile. Mais tout de suite, conseil de famille, Philippe Rossi, Stéphane Moller.